Bonjour et bienvenue dans La Terre à Boire. On est de retour au studio Module, un vrai plaisir pour un nouvel épisode. Autour de la table, la fine équipe de La Terre à Boire, Laurent Delceau, le patron du Wine Therapy, le bar à vin qu'il vous faut à Paris. Bonjour Laurent.
Bonjour.
T'as vu, je te trouve des slogans.
Oui, c'est vrai, il faut que je pense à les réutiliser.
Pas forcément, c'est pas obligatoire. À ma gauche, Valérie Ouvertus, caviste et organisatrice de vos dégustations avec sa société Enotesting. Bonjour Valérie.
Bonjour à tous.
Bienvenue.
Merci.
Tu fais partie des habitués désormais.
Oui, presque, ouais, c'est ça.
Voilà, on est ravis de t'avoir. Et enfin, Patrice Defay, toujours aussi passionné, toujours aussi passionnant. Bonjour Patrice.
Bonsoir.
Il a presque eu le W7-3.
Presque, oui.
T'as eu la moitié, t'as eu le plus dur.
C'est ça, il paraît. Voilà. Le théorique.
Le théorique.
Et je peux également organiser vos blagues pendant les dégustations de mes deux compères.
Alors aujourd'hui, on accueille un invité. On a le plaisir d'avoir un invité en studio, parce que parfois on est au téléphone, c'est tout petit peu moins convivial, même si on arrive quand même à faire des interviews. Mais aujourd'hui, on a le plaisir de t'accueillir. Olivier Borneuf, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
On accueille donc Olivier, qui est le créateur du guide La Tulipe Rouge, que vous connaissez peut-être, ou que vous ne connaissez pas. Moi, je ne connaissais pas avant que mes camarades m'en parlent, je dois l'avouer. Et si vous ne le connaissez pas, vous allez voir, c'est un guide qui n'est pas tout à fait comme les autres, un guide des vins, d'achat de vins, de références de vins, qui a beaucoup d'originalité. Donc, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Tu vas nous raconter un peu tout ça. Comme d'habitude, on va aussi goûter quelques vins. C'est un peu voilà, une bonne habitude qu'on a ici. Il y en aura sûrement un peu plus que d'habitude. D'habitude, il y en a deux. Là, il y a déjà quatre bouteilles sur la table et plusieurs sont au frigo. On va voir si on a le temps de goûter tout ça. Quelques vins, dont certains que tu as apportés et qui déjà nous mettent un peu en joie, pour tout dire, dans lesquels on a déjà plongé le nez et c'est déjà un plaisir. On va parler de ton parcours, du concept original que tu as créé avec la Tulipe Rouge. Avant de t'interroger, je voudrais faire juste un petit tour de table. Mes amis, Patrice, Laurent, je dis Patrice Laurent parce que Valérie, tu étais comme moi, tu connaissais
tout
pas trop.
Ouais.
Comment avez-vous connu la Tulipe Rouge? Ce qui est un peu le point de départ, la raison pour laquelle Olivier est avec nous ce soir.
Ouais. Alors moi, très très franchement, ça fait juste un an. C'est parce qu'on s'est croisé avec Olivier sur les stands de bien boire en Beaujolais il y a exactement un an. Ça vient de se terminer d'ailleurs cette année en 2023. Et puis voilà, on a eu l'occasion de, à travers Philippe Viette, notre ami vigneron qui nous a entremis, j'ai eu l'occasion de découvrir à ce moment-là. Effectivement, c'est un concept un peu, enfin très très nouveau, très novateur. Mais voilà, ça fait un an maintenant que je connais ce guide et que j'utilise puisqu'il est très facile d'utilisation puisqu'il est gratuit et en ligne.
Laurent.
Eh bien, moi, je connais Olivier depuis un petit peu plus longtemps, puisqu'il a une autre casquette qui est celle de formateur du WSET et que j'ai eu le plaisir de l'avoir comme formateur lorsque je passais le WSET il y a quelques temps à l'Académie du Vin, donc à la Défense.
Et toi, tu l'as eu?
Oui, je l'ai eu.
On parle de quel niveau, là?
J'ai eu le 2.
Ah, d'accord. Pat, il a échoué au 3.
Ouais,
enfin, il n'a pas échoué, la moitié réussi, mais c'était le 3 déjà.
Après, j'ai fait ma formation à Suze-Larousse et voilà, j'ai laissé un peu tomber l'idée d'aller plus loin sur W7.
Si on a le temps, on parlera de cette histoire des formations, la validité, l'importance ou pas du Sésame W7 et de toutes les formations qui existent. Avec toi,
épisode,
Olivier. Oui, bah oui, parce que sinon, là, ça va être difficile de parler de tout. Mais peut-être qu'on va quand même en parler parce que ça fait partie de tes activités.
Absolument.
Ton parcours, Olivier. Olivier, avant d'arriver justement à la Tulipe Rouge, tu commences chez Bétane et de Sauve?
Oui, c'est ça, chez Bétane et de Sauve en 2009-2010, je crois. À l'époque, je travaillais en Champagne, je vins ma société et puis j'avais envie de me réorienter vers la dégustation.
Et par l'entremise... Tu travaillais dans le vin en Champagne?
Ouais, on était côté production, on essayait d'aider les vignerons à améliorer leur vin, bon, modestement. Hein. Quelques formations aussi auprès du syndicat général des vignerons. Et puis envie d'aller plus loin sur la dégustation, qui est quand même ce qui nous intéresse tous. Hein. Et par l'entremise de différentes personnes, je me retrouve attablé avec Michel Bétane, Thierry Dessauve pour des dégustations, qui à l'époque avaient lieu avec le magazine Terre de Vin. Et puis de fil en aiguille, on décide finalement de collaborer autour du guide pour couvrir certaines régions. Donc je commence par le Beaujolais, ce qui m'arrangeait bien à l'époque. Une région que j'avais dans le cœur déjà et que je connaissais pas trop mal. Et puis, au fil des années, j'ai agrandi ma zone de couverture et j'ai commencé à couvrir la vallée du Rhône, Châteauneuf-du-Pape, quelques appellations dans le Bordelais. Et en 2019, on apprend l'arrêt du guide. En tout cas, à ce moment-là, c'est ce qui est annoncé comme l'arrêt du guide. L'équipe se voit tronquée et je fais partie des survivants, mais je me dis que c'est peut-être le moment de réfléchir à autre chose, de voir la critique de Venn de façon un petit peu différente. Bon, je te cache pas qu'il y a une crise de la quarantaine qui vient alimenter tout ça, et puis voilà, j'en parle à Fabrice Beaugrand qui est lui aussi à cette époque chez Bête en Dessauve en tant que dégustateur. Je lui explique mon projet et puis à cette époque je lui en parle parce que il est ingénieur dans le digital et ça m'intéressait d'avoir ses compétences à mes côtés. En réalité il en veut un peu plus, il est motivé par le projet, lui aussi il a envie de voir autre chose et puis on décide de s'associer et de créer ce média. Je lui propose le nom de la Tulipe Rouge, à ma grande surprise il a pas tiqué, donc je lui dis ça tombe bien, c'est le nom du futur guide. Et nous voilà partis dans l'aventure en 2020, donc pendant 6 mois on bosse d'arrache-pied pour... construire le projet et se lancer.
Donc 2020, une année presque comme les autres.
C'est ça. Il y a juste un petit virus qui vient troubler un peu l'atmosphère. Oui, ça n'a pas été sans difficulté, effectivement. Mais bon, une fois que tu as la tête dans le guidon, tu y vas. On a eu un immense soutien des interprofessions, des ODG qui étaient quand même là derrière nous. On en parle peu, mais c'est des structures quand même qui... sont souvent sous le feu des critiques, mais qui quand même font le sale boulot et nous ont aidé dès la première année à structurer tout ça, à être en relais de communication puissant auprès des vignerons. Et elles nous ont apporté une crédibilité. Quand le message vient des institutions, c'est toujours plus facile d'attirer le regard sur une nouvelle offre, puisque les vignerons, faut le savoir, sont débordés de demandes. Je crois qu'il y a plus d'une centaine de concours en France de vin, donc c'est colossal, c'est beaucoup trop évidemment. Alors quand tu arrives avec un nouveau projet, en plus un petit peu décalé sur le modèle économique, on en parlera j'imagine, et bien évidemment, quand tu as un support des institutions locales, bah, ça aide. Donc c'est comme ça qu'on a pu démarrer malgré la conjoncture très difficile liée à l'état sanitaire.
Alors du coup, parlons du projet. Qu'est-ce qu'il a ? Patrice a déjà dit, c'est digital et gratuit. Comment tu peux nous présenter en quelques mots ce concept, peut-être tel qu'il était au départ, et puis peut-être qu'il a évolué depuis, mais quelle est l'idée structurante ?
Alors en fait, il n'a pas tant évolué que ça. En tout cas, sur le fond, il n'a pas du tout évolué. Il est resté tel quel, sur la forme un tout petit peu. On est parti d'un constat. En fait, on s'est dit, si on doit faire un autre guide, est-ce que déjà il y a une place pour un nouveau guide? Et si oui, comment doit-il être pensé, conçu et proposé aux vignerons? Et on est parti de ce qu'en fait on entendait dans le vignoble. D'une part, le manque de transparence. Le manque de transparence qui se traduit par un conflit d'intérêts, ou en tout cas tout un substrat qui nourrit ce sentiment de conflit d'intérêts entre le critique et le critiqué.
Vis-à-vis des guides existants, donc la RVF, Béthane de Sauve...
Les
organes de presse qui publient leurs guides achètent vin et tout ça.
Absolument. Alors, c'est pas qu'ils sont en conflit d'intérêts. C'est qu'en tout cas, la proposition qui est faite nourrit cette suspicion.
On peut s'interroger quand même. Quand on a des pages de publicité dans un canard qui fait vivre le canard et que par ailleurs, le canard... critique des vins, effectivement.
Bon, je vais pas faire du Pierre Bourdieu vis-à-vis de la télévision, mais un peu l'idée c'est ça, c'est qu'à partir du moment où on donne la matière pour alimenter cette suspicion, ben forcément elle finit par exister. Donc nous on voulait pas donner cette possibilité à nos lecteurs ni aux vignerons, on voulait les rassurer là-dessus, donc on est parti du principe qu'on ne ferait pas de salon, qu'on ne vendrait pas de macarons qu'on colle sur les bouteilles, qu'on ne ferait pas de publicité, à tout le moins une publicité liée directement ou indirectement au vigneron. Donc ça, c'était le premier constat qu'on a fait. Le deuxième constat qu'on a fait, c'était la façon de critiquer les vins. Alors là, je vais rentrer un peu plus dans les détails parce que c'est important. Vous connaissez tous les deux échelles de valeur qui sont aujourd'hui en place, l'échelle sur 100 et l'échelle sur 20. On juge tous les vins sur cette même échelle, en pensant que l'amateur ou le professionnel final va pouvoir faire le distinguo entre une Côte du Rhône et, pourquoi pas, une Romanée Saint-Vivant. Sauf que la note du Côte du Rhône dépend est directement corrélée à celle qu'on va attribuer à la Romanée Saint-Vivant. Donc un petit vin agréable et un grand vin, soi-disant, de garde avec une forte valeur ajoutée. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, la note est relative aux autres vins. Nous, notre problème, ça a été de dire, mais on peut avoir d'excellents Côtes-du-Rhône, d'excellents vins dans leur catégorie. Et donc, on a cherché à créer un système qui évolue, hein, pour dire, ben, dans chaque type de vin, il y a des vins de soif, il y a des vins souples, il y a des vins de garde, il y a des vins originaux, on peut trouver finalement une excellence dans ces catégories de consommation. D'autant que tous les vignerons aujourd'hui ont bien compris que dans leur gamme, il faut découper ces différents styles de vins, quelle que soit l'appellation d'ailleurs. Ça, c'était le deuxième constat. Et le troisième constat, c'était à qui on s'adresse. Je crois que ça, c'est un constat qu'on a fait et qui était assez évident, malheureusement, c'est que beaucoup de médias ont oublié à qui s'adresser. On s'adresse à des amateurs de vin, à des professionnels, à des gens qui sont peut-être novices et qui ont envie de découvrir le vin. Et donc, il a fallu créer un média qui soit accessible. Alors, effectivement, la gratuité en fait partie, car moi-même qui suis un passionné, pour pas dire névrosé du vin, j'ai du mal à dépenser 30 ou 40 euros dans un annuaire qui est, donc je tourne, je vais pas vous mentir, je tourne 10 pages et puis terminé, je regarde les 10 domaines qui m'intéressent et puis on arrête, quoi. Donc, il fallait trouver un média qui soit capable de rendre finalement la visibilité à tous les domaines, à tous les vins, de façon simple, efficace et vulgarisée. J'aime bien une phrase que Nietzsche a dit au sujet des Grecs, on peut être superficiel par profondeur. C'est-à-dire, c'est pas parce que le message à la fin est simple, évident, que derrière, il n'y a pas un travail de fond qui a été fait. Et c'est ce qu'on a cherché à faire avec un site internet qui se veut relativement accessible, avec des commentaires enthousiastes. Plein de modalités de sélection, on peut choisir par prix, par appellation, par couleur, par cépage, on peut combiner tout ça pour resserrer sa sélection. Et puis enfin, on a mis les bouteilles en photo, c'est important, moi j'achète aussi avec les yeux. Et on a mis que les vins qu'on avait retenus. C'est-à-dire qu'on ne va pas critiquer un mauvais vin. Ça sert à rien. C'est un guide d'achat, que ce soit pour des pros ou des amateurs, des Français ou des Anglais, puisque le site est bilingue, hein, c'est une de nos grandes forces. Le but, c'est de se faire plaisir avec un vin qui va potentiellement être intéressant. Donc tous les vins qu'on estime ne pas pouvoir valoriser, on ne les met pas dans le guide. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le vigneron, c'est pas un cuisinier. Hein. Quand vous allez dans un étoilé Michelin, la recette a été éprouvée peut-être plusieurs centaines de fois avant d'arriver devant le client. Le vigneron, il a un essai. Il ramasse ses raisins, encore faut-il qu'il les ramasse à la bonne date. Ensuite, il faut qu'il vinifie. S'il se plante, bah, c'est fini. On peut pas faire marche arrière. Le millésime est dans la bouteille, terminé. Donc, ayant travaillé côté production, j'ai voulu qu'on respecte ça. Qu'on soit exigeant, qu'on soit même parfois un peu dur dans notre sélection, mais que lorsqu'on tombe sur un vin qui, malheureusement, ne répond pas à nos critères, ben qu'on le massacre pas. Parce qu'on sait très bien que c'est compliqué, qu'il n'y a eu qu'un essai. Donc, on préfère parler franchement au vigneron, mais ça reste entre le vigneron et nous. Donc,
ces résultats sont. Parler de la moitié du verre plein plutôt que de la moitié vide. Donc, c'est bien.
Ah, c'est joliment dit.
Non, mais c'est bien. Parler du jus et pas de la part des anges. C'est ça. Et du coup, ça fait une notation à 4 tulipes, c'est ça? De 1 à 4 tulipes?
Alors, c'est là où on a évolué. Parce que on offre un retour.
C'est des étoiles, en fait. Entre
eux, ouais, alors, on a essayé ça. J'étais pas satisfait, pour être tout à fait franc. Comme on est un média relativement jeune, on peut se permettre de bouger encore sur ce système de notation, n'est pas oui, encore.
Vous n'êtes pas guide Michelin, quoi.
Voilà, un guide Michelin qui met des roses à la place des étoiles, ça va faire bouger. Donc non, on est encore assez flexible là-dessus, et là, on va évoluer sur un modèle, je dirais, hybride entre un pictogramme qui donne la catégorie de vin. Je reviens sur mon exemple Côte-du-Rhône, Romanée, Saint-Vivant. Et on va y associer, sous validation des vignerons, hein, puisqu'on les interroge là-dessus, on n'échappe pas à la note sur 100, parce qu'effectivement, à l'export, on s'est rendu compte qu'il y avait une très très forte demande, c'est le baromètre. Aussi bien par les acheteurs que par les vignerons eux-mêmes.
Donc, c'est devenu un référentiel par cœur. Et puis...
Malheureusement. Alors, bon, là où on s'en sort un peu, c'est que tous les vins sont décrits. On ne décrit pas le domaine. Contrairement à nos confrères qui décrivent le domaine, d'ailleurs de façon remarquable souvent, mais d'ailleurs on a juste une note qui résume les vins. Nous on a fait le pari inverse, on préfère détailler les vins qu'on a dégustés et dire quelques lignes sur le domaine. Pourquoi ? Parce que déjà, ça permet de pondérer la note sur 100 à venir. C'est-à-dire que c'est pas simplement la note qui résume le vin, c'est aussi le commentaire, ça aide, hein, s'il est bien écrit. On espère qu'on écrit bien. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est que je pense que là-dessus, on est précurseur. Il y a 10 ans de ça, moi je me souviens, je pouvais acheter un domaine tous les ans. C'était un bon domaine, donc tous les ans les vins étaient bons. Aujourd'hui, tu te retrouves avec des domaines qui, même lorsqu'ils sont devenus des stars, très connus, d'un millésime à l'autre, ça bouge. Ça bouge parce que les millésimes sont de plus en plus compliqués, parce qu'ils prennent de plus en plus de risques, parce qu'ils sont en quête d'expérience, d'innovation. Et donc, on n'arrive jamais à un vin qui est totalement abouti et qui est répété pendant 40 millésimes. Ça, c'était vrai.
C'est pas du champagne, quoi.
Alors, c'est vrai que pour le champagne, le BSA, ça fonctionne comme ça. Donc, effectivement, on a cette, ce confort dans certaines régions où d'un année sur l'autre, peu ou prou, ça reste à peu près les mêmes. Mais encore que c'est pas tout à fait vrai. De moins en moins en champagne. Mais pour les autres régions, tu t'aperçois que même chez les grands, d'une année sur l'autre, la cuvée que t'adorais, cette année-là, elle est un peu moins bonne.
Donc la note sur 100, elle est pas présente encore, mais elle va venir.
Elle est en discussion avec les vignerons parce que voilà, il y a que les qui changent pas d'avis. Donc on est à leur écoute. On est là pour leur rendre service quand même. Hein, donc s'ils nous disent que cette note, elle est essentielle pour le développement commercial de leur exploitation, on l'entend.
Après, bon, les notes, etc., même si on est sur de la tulipe, il faut quand même un concept de ce que c'est un bon vin ou un beau vin.
Oui.
Donc, c'est quoi vous, votre, il faut la définition, le maître étalon. Donc, c'est quoi votre définition? J'ai quelques idées parce que c'est écrit clairement dans vos guides. Mais c'est quoi le maître étalon du bon vin ou du vin beau?
La finesse, cher monsieur.
La finesse. Non, j'ai vu trois messages, moi, qui me parlent bien. Ouais. C'est que c'est un vin silencieux. Donc, pour moi, je traduis, c'est un vin authentique, qui s'exprime par lui-même et dans lequel on rajoute pas des choses pour le faire s'exprimer et parler pour ce qu'il est pas. Donc, voilà. La deuxième, c'est un vin soigné. Donc là, ça m'intéresse de savoir ce que c'est qu'un vin soigné. Mm-hmm. Et la troisième, c'est que c'est un vin élégant.
Ouais.
C'est les trois termes que j'ai retenus dans. Ouais. Alors, ça veut dire quoi, ça?
Ah, c'est, je vois que t'as bien travaillé. Hein. Yep.
Toujours.
Toujours.
Le meilleur d'entre nous.
Alors, je vais pas revenir sur le premier, parce que les vins qui ont le goût du silence, pour moi, c'est des vins qui n'ont pas besoin d'en rajouter. Je veux dire, on a connu cette époque malheureuse à Bordeaux qui est révolue, faut le dire. Bordeaux a jamais été aussi bon. Mais cette époque des vins très moisés, très vanillés, bon, voilà, ça c'est pour moi, c'est...
Maquillé, quoi.
J'en rajoute, je veux toujours mettre plus dans la bouteille, ça sert pas à la cause. Donc en fait, un vin qui a le goût du silence, c'est ça. C'est un vin qui dit le juste mot. Et qui n'a pas besoin de rajouter. Là, on goûte un Belmont 2013.
Parlons-en, tiens.
C'est pas une bombe aromatique, mais c'est extrêmement délicat. Voilà, ça suffit. C'est pas un monstre de puissance. C'est sûr que c'est pas un Puligny Montrachet premier cru. Ça dure pas 12 caudalies en bouche, mais tout est là. Et c'est ce qui fait notre bonheur, quoi. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord. Hein.
Parlons de ce vin. Alors, dis-nous, Belmont, c'est le nom du domaine. Cuvée Montaigne, et c'est un Chardonnay.
Ouais.
2013. Et qui se trouve où?
Alors dans le Lot, hein, Laurent l'a dit juste avant qu'on commence l'émission, je pense que tu le connais très bien ce vin.
Disons que c'est un domaine que j'ai visité et dont j'apprécie beaucoup les vins, oui.
Ouais. Bon voilà, c'est ce qui est merveilleux, c'est l'éclat, la fraîcheur, ça a 10 ans, hein, c'est pas rien pour un blanc. Il y a des Bourgognes de 10 ans qui sont déjà fatigués, donc faut quand même saluer ça, et je pense qu'il en a encore sous la pédale d'ailleurs. Ce qui est remarquable, c'est la fraîcheur, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans le Lot, on est sur des parfums qui sont pas sans rappeler peut-être la côte chalonnaise ou des choses comme ça. En tout cas, il y a des échos de fleurs blanches, d'agrumes, et puis derrière, une excellente acidité. Alors, j'aime pas trop parler de ça, mais il y a presque un côté calcaire, quoi. Vous voyez, qui vient, une sorte de sapidité qui vient rafraîchir la bouche et appeler le deuxième verre. Donc oui, ça m'émeut parce que ce sont des très jolis vins. Quand on a des référentiels ailleurs sur ce même cépage, on s'aperçoit que c'est une merveille parce qu'effectivement, il a ni la réputation, enfin la réputation aussi, il a chez les amateurs avertis, c'est quand même connu, mais il a des standards esthétiques qu'on retrouve en Bourgogne et à des prix beaucoup plus modestes. Quoique ça a augmenté, je crois, Laurent, hein, depuis, non? Tu confirmes?
Oui, je pense que effectivement. Ouais. La tendance sur...
À force d'être dans la tulipe rouge, forcément, ça crée des problèmes.
La tendance sur le vin n'est pas à la baisse, hein, sur les prix du
donc,
vin.
Donc, pardon d'insister, mais donc, du coup, ok, silencieux. Ouais. Et après, donc, sur soigner et. Ouais.
Alors, soigner, c'est très important. Surtout aujourd'hui, où on a une tendance à délibérer, à laisser les vins aller d'eux-mêmes. Quand je dis soigner, c'est la maîtrise. Mais la maîtrise, c'est pas stériliser le vin. Hein. Je veux dire, les plus grands vignerons ont une excellente technique, une excellente maîtrise. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas du génie, qu'il n'y a pas du mystère, qu'il n'y a pas du lâcher-prise là-dedans. Justement, tout l'art de la maîtrise, c'est de pouvoir lâcher prise au bon moment et de laisser le vin, finalement, grandir de lui-même. Il y a une grosse différence entre tout faire pour bloquer le vin et ne rien faire pour le laisser partir dans tous les sens. Le vin, c'est un échec à la mort, hein. C'est un échec à la putréfaction. C'est du raisin qui, par le biais de la fermentation, devient un instant du vin et puis peu après, du vinaigre. Donc le but, c'est finalement de rendre ce moment
éternel.
Quasiment éternel. Mmh. En tout cas, il le deviendra dans nos souvenirs si le vin est bon. Et de faire en sorte que ce projet éternel soit une réussite esthétique. Et c'est là où le mot est important. L'esthétisme, c'est pas une affaire de dogme, de pensée, de croyance. C'est une affaire de sens. Est-ce que le vin sent bon? Est-ce que le vin laisse des sensations équilibrées? On fait ce travail-là avec la nourriture. Tous les jours. Pourquoi n'arrivons-nous pas à l'appliquer au vin? Le vin, il faut que de suite, il y ait un voile de pensée dessus. En tout cas, pour ce qui se passe actuellement. Donc, pour moi, un vin soigné, c'est un vin qui sait être précis dans la direction qu'on a voulu lui donner. Qu'on soit sans soufre, avec soufre, nature ou pas nature, qu'importe ça, l'étiquette, l'épithète qu'on accroche au mot vin, moi, m'importe peu. Ce qui m'intéresse, c'est le message final dans le verre. Donc, en cela, soigné, c'est très important. Et ça touche toutes les catégories de vins, encore une fois, du Côte du Rhône à la Romanée Saint-Vivant. Donc ça, c'est le
savoir-faire. On n'a jamais autant cité la Romanée Saint-Vivant. J'espère qu'ils vont nous envoyer une caisse.
Oui, alors.
Non, merci.
Tu as compris le message subliminal.
Oui, donc, écoute, ça. On attend le rappel.
Si on peut avoir Robert à nos côtés.
Il faut que je mette le hashtag.
N'oublie pas, Laurent.
La story, oui.
Donc, un vin soigné, c'est ça. C'est un vin qui est fait avec tact, avec délicatesse, avec précision. Voilà. Sans tomber dans l'hystérie, que ça soit dans un sens où on verrouille tout, on empêche le vin de grandir, ou dans l'autre, hystérie qui finalement est la même.
Hein, sur le fil, sur la ligne de crête, quoi.
Exactement.
Cette appréciation, je me permets, ouais. Cette appréciation, est-ce que tu peux l'avoir à l'aveugle avec un verre, ou est-ce que c'est important d'être aussi dans la connaissance du travail du vigneron, de la façon dont il aborde son travail concret, comment il fabrique son vin, ou tu pourrais avoir une conclusion comme ça en dégustant des vins à l'aveugle. Je ne sais pas, tu vas nous dire si vous dégustez à l'aveugle, mais ça, c'est un vin soigné.
Effectivement, on n'est pas rentré.
Il faut qu'on en parle. Mais tu vois, non, mais je rebondis sur le côté soigné, toute la critique que tu apportes à ça. Ça doit être bien fait, tout ça. Est-ce que ça sent dans le verre, ou est-ce que c'est important de connaître les domaines, de rencontrer les vignerons, etc.
Alors, je réponds à ta question, mais juste, je termine sur le troisième point. L'élégance, c'est finalement une harmonie qui dit pas son nom, quoi. Tu peux dire d'un vin qu'il est équilibré parce que, par exemple, dans un vin liquoreux, la quantité de sucre par rapport à la quantité d'acidité, ben, ça fonctionne. T'as pas une bouche qui est trop lourde, t'as pas une bouche qui est trop vive non plus. Donc, tu estimes que le vin est équilibré. En revanche, tu peux parler d'élégance quand tu oublies ces éléments-là. Quand finalement, ils fusionnent les uns avec les autres et que t'as une sensation d'harmonie sur toutes tes saveurs, de tous tes sens. Il y a une très belle phrase d'Émile Pénaud qui dit que la saveur renforce l'odeur et l'odeur souligne la saveur. Ou l'inverse, je sais plus. Mais en tout cas, il y a une espèce de résonance entre tes sensations physiques et les odeurs. Ça, c'est l'élégance. C'est quand on force pas le trait. Dit autrement, si tu prends un vin, on va parler d'Australie, t'as des vins, des fois, des chardonnays qui sont citronnés, enfin, qui sont plutôt, on va prendre ça à l'envers, qui sentent l'ananas, les fruits exotiques, la mangue, et puis t'as une acidité qui déchausse les dents. Ça, c'est pas élégant. C'est équilibré, mais c'est pas élégant. Parce que l'ananas, la mangue, c'est pas acidulé.
Enfin, ouais, c'est la notion d'harmonie. Enfin, Pénaud parle beaucoup d'harmonie.
Absolument.
PTH, hein, pureté, terroir, harmonie. Voilà. Sa définition.
Donc, j'y attache beaucoup d'importance parce que cette harmonie, elle ne peut être que naturelle. Voilà. Donc elle va de soi. Bref. Oui, on déguste à l'aveugle. Oui.
D'accord.
C'est une évidence. C'est une évidence parce qu'en fait, déjà les vignerons ne l'accepteraient pas, ce qui me semble une requête légitime.
Est-ce que tu peux revenir justement sur comment vous avez mis le
oui, c'est ça,
tout ça en musique là, parce que ouais. Vous avez eu le projet, on est tout de suite rentré dans le la façon dont on décrit les vins, mais moi ce qui m'intéresse effectivement c'est de comprendre finalement comment on s'y prend, comment on lance un guide, comment on convainc des vignerons de participer à l'aventure. Ok, j'ai compris qu'il y avait effectivement le soutien des ODG qui avait dû faire le premier pas en disant tiens, il y a ce nouveau guide, est-ce que vous voulez participer à un appel à échantillons, j'imagine, là je te laisse peut-être un peu décrire le processus.
Est-ce que prépare ta réponse et on fait juste un tour de table pour parler de ce vin parce que tu en as parlé un petit peu, mais vous n'avez pas dit ce que vous pensiez de ce vin, ce chardonnay IGP Côte du Lot.
Moi, c'est une cuvée que je ne connaissais pas. Je connais le domaine, mais je ne connaissais pas cette cuvée ou alors elle m'a échappé. Mais c'est clair que c'est très agréable. Il y a un côté vanillé comme ça qui ressort. La robe est, bah oui, parce que les auditeurs voient pas
Mais tu peux parler de la robe.
Bah oui, la robe est superbe. Or, c'est superbe. Et puis, c'est vrai qu'en bouche, il y a le côté, effectivement, ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a ce côté, on salive en fin de bouche, alors qu'on s'y attend pas forcément. Je trouve que on s'attend pas à ce que ce soit comme ça. Et en fait, c'est très agréable. Voilà. Donc, je trouve ça plutôt, élégant.
Super chardonnay.
Non, c'est un joli vin. On en reparlera après. Je pense que la force du guide, sans faire de flagornerie ou quoi que ce soit, c'est de justement. On l'a pas dit, mais c'est que des vins à moins de 20 euros.
Donc c'est plus maintenant. C'est fini.
Alors jusqu'à
c'est des vins à plus de 200 maintenant. Ça a changé.
C'est une digression là.
Non mais je digresse, mais c'est un vin qui est très intéressant parce qu'il est très équilibré effectivement dans un endroit d'un IGP du Côte de Lot qu'on n'imaginerait pas.
Alors oui.
À ce niveau-là.
Effectivement, le côté IGP, ça donne toujours l'impression qu'on va payer des vins moins chers. Ce n'est pas le cas. Il y a des vignerons qui décident d'aller en IGP parce que tout simplement ils sont pas sur les cépages.
Là, tu pourrais pas dans le Lot faire du chardonnay.
Tu peux, mais voilà.
Oui, tu peux faire le vin, mais il sera pas dans l'appellation.
Le coin, c'est l'appellation Cahors plutôt. Donc, par définition, il y a déjà
Cahors,
pas de blanc.
Ça fait pas.
Il y a déjà pas de blanc et clairement le chardonnay est pas non plus le cépage qui est privilégié dans le coin. Quoi. Mais moi, j'aime bien effectivement leurs blancs. Leurs blancs sont magnifiques, mais leurs rouges aussi sont très chouettes avec des encépagements qui sont pas non plus le Malbec, puisque c'est de la Syrah et du Cabernet Franc, je crois, l'essentiel de l'encépagement.
Encore des originaux. On va appeler notre ami Lianao.
Ils ont un parti pris et un parti pris qui paye, enfin qui fait des vins
superbes.
Qui fait des vins superbes, ouais.
Alors, allons-y, rentrons dans le dur. Comment ça marche, la tulipe rouge?
Alors, pour faire court et concret, pour lancer un appel à échantillon, il faut vendre deux modèles, tout simplement. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de salon, il n'y a pas de médaille. Donc, comment on casse la croûte, parce qu'il y a quand même une réalité à la fin. On se dit, qui on fait payer? L'amateur, c'est clair, il ne paiera pas. Déjà qu'il ne paie pas pour les guides, pourquoi il paierait pour nous? Donc, on se dit, après tout, on rend un service. On rend un service. On note les vins, on les traduit. On a quand même un fichier de plus de 70 000 professionnels dans 55 pays. On traduit en anglais. Et puis, quand un vin n'est pas retenu, on rend des comptes aux vignerons. On est quand même le seul guide aujourd'hui au monde à renvoyer des commentaires expliquant la raison pour laquelle on n'a pas retenu le vin. Ce qui n'est pas un exercice facile. Je peux vous dire que faut mettre les pincettes et être précis. Parce que le vigneron, il ne vous rate pas là-dessus. Donc, on s'est dit, on rend un service. Donc, on peut faire payer le vigneron. Alors vous allez me dire, si vous faites payer les vignerons, ça y est, il y a tout qui s'écroule, vous êtes en plein conflit d'intérêts. Non, on fait comme Michel Rocard avec la CSG, on fait une petite participation forfaitaire la plus ridicule possible, c'est-à-dire 60 euros hors taxe par échantillon, ce qui fait que quelques centimes par col, c'est moins cher que les cotisations volontaires obligatoires, j'aime beaucoup le nom, que les vignerons payent auprès de leurs institutions. Donc avec ça, on neutralise, parce que un négociant important qui va déposer peut-être, je ne sais pas moi, j'ai une bêtise, une vingtaine d'échantillons, à la fin ça fait que 1200 euros. Donc c'est pas ça qui va nous faire vivre à la fin du mois. Et donc il a aucune influence sur nous. De la même façon, un petit vigneron qui a pas beaucoup d'argent, qui peut pas se payer un stand dans un grand salon ou un quart de pub dans un grand magazine, 60 euros il peut exister. Il peut exister, il a une chance comme les autres. Et c'est là où ça devient intéressant. c'est que les interpros nous aident à tenir ces prix parce qu'elles organisent les dégustations pour nous. Elles collectent les échantillons à chaque fois que possible. Je ne dis pas que toutes le font, mais la plupart, évidemment, font tout pour le faire. Donc, on a cette logistique qui est assurée par elles. Donc, du coup, ça, c'est un coût de moins aussi. Alors, je dis la plupart, mais toutes ne le font pas parce qu'il y a des organisations qui voient les choses différemment. Bon. On est là-dessus, on n'a pas de jugement à porter, mais néanmoins, à chaque fois que c'est possible, on le fait sur place. Ça a cet avantage logistique, mais ça a un autre avantage, c'est celui d'être surveillé par des gens du cru qui nous voient déguster. Donc, ils peuvent témoigner que les choses ont été faites sérieusement. Et ensuite, c'est à l'aveugle. Alors, à l'aveugle, il y a quand même un critère qu'on connaît, c'est le millésime. Parce qu'on peut pas juger, tiens, j'ai amené un Beaujolais, 2020, c'est pas 2021, hein. Donc, si tu mélanges ces deux millésimes à l'aveugle, c'est du grand n'importe quoi. Donc, ça, non, on est obligé d'en tenir compte. Donc, on mélange pas les millésimes. Et à chaque fois qu'au possible, ben, on essaie de semer le trouble. Notre but, c'est justement de juger le vin pour ce qu'il est, quoi. Chaque fois qu'il y a un doute sur une bouteille, on ouvre la deuxième. Alors, ça peut paraître évident. Mais, et c'est là où la technique est importante. C'est là où la connaissance, je dirais, énologique et a du sens, c'est quand on sent qu'il y a une toute petite déviance sur une bouteille, une petite oxydation sur un jeune millésime, on ouvre la deuxième. Parce que, je vais reciter Pénaud une nouvelle fois, mais il disait, il n'y a pas de grand vin, il n'y a que des grandes bouteilles. C'est ce qu'on s'est dit juste avant de commencer l'émission, en ouvrant ce Montaigne 2013, bah, peut-être qu'on aura une mauvaise surprise. Il se trouve que le bouchon était superbe, donc la bouteille est belle. Donc, quand il y a un petit doute sur la bouteille, on ouvre la deuxième. Donc, il présente deux bouteilles. Une fois que c'est fait, on récupère le fichier. La dégustation est terminée. On récupère le fichier de l'interprofession ou de l'ODG. On met les petits numéros en face. Et puis là, on découvre qui en a dégusté. Donc, là, c'est surprenant parce que effectivement, il y a des domaines qu'on attendait au tournant et qui finalement ont déçu ou inversement. Mmh.
Donc là, vous êtes combien à déguster justement pour pouvoir évaluer la série ?
On est une équipe de 4. Alors je suis désolé, on est une équipe de 4 garçons.
Cite les camarades quand même.
Ah ben oui, avec grand plaisir. Alors ce sont tous des amis. Donc il y a Sébastien Durinviel, qui est un super dégustateur très fin qui a écrit plus d'une vingtaine de livres dans le vin et qui collabore avec moi à l'Académie des vins spiritueux à La Défense. Ensuite, il y a Fabrice Beaugrand, là qui est une véritable bibliothèque. Ça fait très très longtemps qu'il déguste et il est avec moi chez Béton des Sauves. Donc on a dégusté assez longtemps ensemble et il est devenu mon associé. Et puis Gilles Martin qui est notre doyen, hein, mais qui a été mon prof, si j'ose dire, qui m'a formé au vin et qui est un microbiologiste de formation et qui est venu au vin par passion. Hein. Pour la petite anecdote, le jour de ses 18 ans, quand il a eu son permis, il est parti à Barolo. Hein. Il n'est pas parti en discothèque, il est parti à Barolo. Donc ça vous donne un peu la dimension du personnage. Et qui a géré pendant de nombreuses années un laboratoire d'analyse fine. Hein. C'est pas un laboratoire d'œnologie, d'analyse fine à Savigny-les-Bonnes. Il a consulté dans les plus grands domaines. Donc c'est un peu notre référent technique. Et donc à nous quatre, on déguste l'ensemble de la France. Alors, on déguste jamais tous les quatre ensemble, c'est très difficile de nous réunir. On essaie, à chaque fois que possible, d'être au minimum deux. Moi, je ne crois pas à l'infaillibilité du dégustateur. Donc, évidemment, on est toujours deux et on se challenge. Voilà. Et il y a forcément un décideur qui est choisi au moment de la dégustation. C'est pas toujours moi, hein, bien que j'aimerais. Hein. Mais il y a toujours quelqu'un qui a le dernier mot et on le respecte. C'est très important.
Donc, si on reprend le process, les vignerons sont invités à envoyer des échantillons. Ils payent pour chaque échantillon pour tenter de se faire référencer dans le guide. Comme tu le signalais au début, si jamais un vin vous plaît moins, vous déplaît, plutôt que de lui mettre une mauvaise note, il sort du référencement. Ouais, c'est ça que je comprends. Vous ne le retenez pas.
Ouais.
Plutôt que d'en dire du mal, vous préférez ne pas le retenir. Tout en apportant une explication au vigneron qui aura envoyé son échantillon, qui va être déçu de ne pas être retenu, voilà. À l'arrivée, ça fait combien de vins qui apparaissent dans le guide? Parce que le guide est par région. Alors, si on prend
française,
exclusive région française. Même s'il est bilingue, il ne parle que de la France.
Oui, oui. Alors, faut pas dire Fontaine, mais le but c'est quand même défendre les vins français, quoi. Enfin, clairement,
il y a de quoi faire. Là.
Voilà, et puis il y a de quoi faire. En gros, on est On est sur une moyenne de 8000 échantillons à peu près.
Dégustés chaque année.
Ouais, à peu près. Sans compter nos propres initiatives, hein, je veux dire. On répond aux invitations presse, on va dans le, demain je pars dans le vignoble, il y a une nouvelle œnologue qui est arrivée dans un domaine dans le Beaujolais, je vais déguster sur cuve, ensuite je vais dans le Mâconnais, revoir un domaine que j'ai découvert, la Tulipe Rouge, et chez qui je vais acheter des vins, tu vois, pour rien te cacher. Donc c'est même rentable pour ces vignerons, hein. qui payent l'échantillon, qui après se voient bénéficiaires derrière. Donc, on est avant tout des passionnés, quoi. Donc, on fait les choses avec beaucoup de cœur et beaucoup de sérieux, sans se prendre au sérieux, hein. On sait très bien comment est l'exercice de la dégustation. Donc voilà. Et t'as raison d'insister sur le fait que on retient pas tous les vins. Le ticket d'entrée, c'est le vin, c'est pas le domaine. On se moque de savoir qui a marqué sur l'étiquette. Mmh. C'est le vin. Voilà.
Après, du coup, vous avez pas tous les vins pour.
Non.
Alors, sans faire de chauvinisme, mais c'est vrai que si on va en Corse, par exemple, il y a zéro patrimonio. Alors, ils vous ont pas envoyé les échantillons ou ils étaient tous mauvais?
Ils sont plus chers, peut-être.
Mon Dieu. Qu'est-ce que vous avez fait avec
patrimonio? Attends, je regarde sous la table.
Non, mais c'est la notion de. Voilà, est-ce qu'on a tous les.
Oui, c'est une excellente question que tu poses là. Alors, c'est à l'initiative des vignerons de participer.
Oui, non, c'est ma question. Ils n'ont pas envoyé.
Moi, je me suis rendu compte d'une chose. J'ai parlé du guide dans lequel j'ai travaillé auparavant. Il y avait une quête de l'exhaustivité. Tu comprends? Il y avait cette volonté d'avoir tous les domaines. Malheureusement, ces médias-là ont tellement créé la suspicion sans s'en rendre compte qu'en fait, ils ont effrayé certains domaines. D'une part, parce que celui qui était mal noté se voyait en fait clairement affiché comme un mauvais domaine ou un mauvais vin, ce qui est terrible. Ça casse les ventes. La deuxième raison, c'est que connaissant le type de dégustation de tel ou tel média, on préfère y être. On préfère ne pas prendre le risque d'y être que de courir le risque de se voir afficher comme. Donc,
il n'y a pas une troisième catégorie des vignerons qui, de toute façon, savent qu'on parle de leur vin dans la presse et voient pas l'intérêt d'être référencé dans un guide de plus, alors c'est en même, plus payant.
Alors c'est même pire que ça, c'est que il y a des les médias qui certains médias demandent à ces domaines en direct de leur envoyer des échantillons pour que le média puisse dire que tel vin est présent dans la sélection. Ce qui est dramatique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le rapport de force s'inverse, c'est fini. C'est ce qui s'est passé avec les crus glacés de Bordeaux. Je veux dire, aujourd'hui, si quelqu'un arrive en étant critique sur un domaine ou fait juste un pas de côté, il ne passe plus la porte de certains châteaux. Parce que c'est préjudiciable pour l'image. Donc, en fait, faut bien comprendre que le rôle de critique aujourd'hui est menacé parce que il y a cette tension, ce rapport de force qui est de nouveau favorable au profit du producteur. Alors, quand je dis rapport de force, faut le comprendre comme l'absence d'honnêteté intellectuelle entre le critique et le critiqué. Donc, pour répondre à ta question, on a eu deux phénomènes. Alors, on a effectivement résolu le problème de l'exhaustivité en se disant, mais après tout, il y a 4000 vins référencés sur le site. Si vous n'arrivez pas à trouver un vin à boire ce soir, c'est qu'il y a un problème. Donc pour moi, c'est pas un sujet d'exhaustivité, puisqu'on a sélectionné des bons vins. Donc si c'est des bons vins, les gens devraient trouver leur bonheur, qu'on soit pro ou amateur. Donc pour moi, ceux qui y sont pas, tant pis pour eux, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas. Je parle de ceux qui n'ont pas présenté, hein, pas de ceux qui n'ont pas été sélectionnés. Donc l'enjeu d'exhaustivité, pour moi, n'est pas un enjeu. La deuxième chose, c'est que on a eu la surprise d'avoir des domaines qui ne présentent plus dans les autres guides. On a des gens qui sont venus déposer des échantillons chez nous et qui refusaient depuis des années de déposer des échantillons dans les médias existants. Donc ça veut dire que quand même, la question éthique était un sujet central pour certains vignerons. Pas pour tous, hein, je ne veux pas vous raconter l'histoire, mais pour certains, ça a été un enjeu. Et des domaines aussi bien connus que des domaines très très connus. Donc c'était intéressant de voir ce regain d'intérêt pour une critique saine, hein, où on fait les choses du moment qu'on est sérieux. Moi, je pense que notre plus grand succès, c'est pas forcément le volume, hein, parce que le volume, il suffit qu'on mette les échantillons gratuits, demain on utilise des échantillons, hein, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le respect de la critique, c'est-à-dire, est-ce qu'on nous juge compétents? Et en l'occurrence, si ça fait 3 ans qu'on est là maintenant, c'est qu'on est jugé compétent. Sinon, on serait déjà mort, hein. Avec un modèle aussi innovant, aussi décalé, on n'aurait pas tenu aussi longtemps, quoi.
Tout à l'heure, tu parlais des notes, justement, qui allaient certainement revenir pour l'export, etc. T'as pas peur, justement, qu'on retombe dans le biais connu, justement, avec tout le mal que les guides Parker ont pu faire à beaucoup de châteaux bordelais?
Si.
T'as pas peur qu'on retombe là-dedans? Parce que moi, c'est ce que... Si. Ça, c'est ce qui me vient à l'esprit, naturellement.
Si. Tu as complètement raison. C'est d'ailleurs pour ça qu'on interroge les vignerons. Cette décision, on peut pas la prendre à leur place. On va la prendre avec eux. Évidemment, on actera à la fin de... ce qu'on va faire, mais ça n'empêche pas d'avoir une position de transition, c'est-à-dire on peut tout à fait imaginer venir adosser une note sur 100 à notre système existant, c'est-à-dire qui classe, je vais reparler de la Romanée Saint-Vivant et de la Côte d'Or.
On va faire un tambour pour parler du vin qui est arrivé dans nos verres entre-temps.
Et donc, j'en termine deux mots. Donc, on va voir. Si vraiment ça accroche, tant mieux. Et si on voit que d'ici un an ou deux ans, voire peut-être cinq ans, la note n'a plus de sens, on l'enlèvera sans problème. Mais effectivement, c'est une question qu'on doit traiter avec les vignerons parce que c'est eux les premiers concernés.
Laurent, on a un verre désormais dans nos verres, un vin dans nos verres qui est rouge cette fois. On est passé du Chardonnay du Lot à un vin rouge. Et c'est toi qui l'as porté cette fois.
Oui. Un domaine, encore une fois, j'apporte que des vins dont j'aime, à la fois le producteur et la qualité des vins.
Tu travailles à la Tulipe Rouge, c'est ça?
Peut-être un jour, qui sait.
Oui, parce que c'est dire bon. Qu'on a ça en commun. Nous, on a toujours préféré dire du bien des vins et ne pas parler des vins qu'on aimait moins.
Oui, je me vois mal défendre des vins qui ne me plaisent pas. C'est compliqué. Donc là, on est dans le Ventoux. Hein. Bon, le Rhône, c'est une région que j'ai pas mal parcourue et dont j'aime beaucoup les vins. On est chez Philippe Gimel, donc un vigneron qui a un domaine qui s'appelle Saint-Jean-du-Barou et que j'ai découvert il y a quelques années. Et il se trouve que là, je suis sur le point de recevoir une grosse commande de ces vins parce que j'arrivais en fin de course sur ceux que j'avais auparavant. Donc j'étais un peu triste, j'avais plus de vins du domaine à proposer. Là, j'ai récupéré pas mal de ces cuvées. Il fait des choses qui sont élégantes, qui retranscrivent bien son terroir. Hein. C'est un amoureux de son terroir. Donc on est sur un assemblage relativement classique, Grenache, et on a du Carignan et du Cinsault, je crois, hein, c'est ça. Ça doit être marqué au dos, si vous voulez m'aider.
C'est aussi un millésime, ouais, Grenache, c'est 2017.
On est sur un 2017, oui, il a des tout petits rendements. Là, ces dernières années, il a été beaucoup affecté par les aléas météorologiques et donc il a des encore plus petits rendements. C'est un vigneron vraiment à découvrir si vous êtes dans la vallée du Rhône, si vous pouvez y aller facilement, parce que déjà les paysages du Ventoux sont magnifiques. Hein. J'insiste toujours sur la partie œnotouristique du vin, mais ça fait partie du plaisir qu'on prend à déguster un vin, c'est de se retrouver dans ces paysages. Le personnage est très attachant et les vins, pour moi, ont un vrai caractère, ont une vraie sensibilité.
Très joli vin.
Moi, je suis très surprise parce que j'aime beaucoup cette région, j'aime beaucoup cette appellation. Mais c'est vrai qu'il est très agréable. Et là, j'ai regardé quand même le titrage d'alcool sur la contre-étiquette. Et on le sent pas, en fait, ça va. Ouais, je trouve ça super sympa.
Qu'est-ce que tu as lu sur la contre-étiquette?
18.
Si tu le dis pas, 18. Si tu le dis pas, on peut pas le deviner.
Non, ça, c'est
un vin qui
14,5.
Fait 14,5.
Donc, évidemment, dans cette région, on peut, voilà, ça peut arriver. Mais pas toujours. Parfois, on est à 13,5, etc. Et c'est vrai que, ouais, je trouve que c'est tranquille.
Alors. Effectivement, là, on est sur la cuvée, sa cuvée La Source, donc et sa cuvée, si j'aime pas trop dire ça, d'entrée de gamme, qui est sa cuvée la plus simple, qui est un assemblage de plusieurs terroirs. Mais Philippe est un homme d'expérience et comme je disais d'une grande curiosité intellectuelle. Donc là, aujourd'hui, il réalise des cuvées parcellaires et il s'amuse sur un même cépage à faire deux cuvées qui vont avoir des expositions différentes, par exemple, pour exprimer justement cette variété, enfin cette diversité qu'il peut y avoir dans les vins, juste basée sur un critère. Donc il va jouer sur des sols différents, sur des expositions différentes et créer deux cuvées différentes. Donc il a pas mal de cuvées, c'est assez intéressant, mais sa démarche est vraiment très chouette. Et d'ailleurs, là, je pense prochainement organiser une soirée dégustation pour découvrir les vins de Philippe.
Notre dégustateur invité.
Merci. Je connaissais pas la cuvée. J'adore. Je le dis sans farce, c'est délicieux. Pour les raisons que tu évoquais à l'instant, c'est fin. Il n'y a pas du tout ce côté chaleureux, visqueux de certains vins un peu trop marqués par le soleil. Une excellente fraîcheur. On salive et on revient sur une note un peu épicée, poivrée, avec une très jolie texture. J'adore ce genre de vin. Hein. Je veux dire, j'ai déjà fini mon verre, hein, donc c'est pas un hasard. Non, c'est délicieux. Je te remercie beaucoup. C'est typiquement le genre de vin qui me plaît. Donc.
Est-ce que c'est un vin qu'il faut boire maintenant ou moi j'ai l'impression qu'il a il a un peu un potentiel de garde. Est-ce que il sera pas encore plus fondu, encore plus
Bah écoute, moi j'ai ouvert des bouteilles dès 2020.
Il en a sous le pied en tout cas.
J'avais déjà beaucoup de plaisir à le boire en 2020. C'était vraiment un vin sur le fruit. Là, je trouve qu'il a un petit peu évolué. Il a des notes un petit peu plus animales à la limite que ce qu'il avait quand je les ouvrais au tout début. Et je pense que oui, il a un potentiel. Hein. Il a un réel potentiel de garde.
Il est déjà bon, mais il sera peut-être encore meilleur plus tard.
Je rebondis ce que tu viens de dire parce que c'est tout à fait juste. Il y a une toute petite pointe d'animal. Alors moi, le descripteur qu'on emploie chez nous, c'est côté foin fermenté, le foin qu'on a dans les silos à la campagne, en fin de bouche notamment. Ça, c'est un marqueur de phénol volatile qui est considéré comme un défaut, mais qui ici donne de la complexité. Et c'est ce que je trouve fascinant dans ces vins-là, c'est quand ils sont, tu le disais tout à l'heure très justement, ils sont sur le fil. Et là, ça marche à merveille. Ça marche à merveille et on sait que le vin évoluera favorablement parce qu'il a déjà 6 ans de bouteille, donc ça aurait été déjà catastrophique si ça avait été plus prononcé. Donc c'est remarquable quand on a des vignerons comme ça qui arrivent à favoriser l'esthétisme avant une analyse métrique presque mathématique du vin. Ouais, c'est un vin d'émotion, ça. C'est très très bon, hein. Vraiment. Merci beaucoup. Hein,
il m'évoque, mais ça n'a rien à voir. Mais comme voilà, je me lance parce que
Romanée Saint-Vivant.
Je suis nul en dégustation, mais moi, c'est le genre de vin que j'aime bien. Des fois, si j'ai pas les bons descripteurs, mais pour moi, il y a un côté le côté nature, hein, sans que ce soit un gros mot, mais quelque chose qui envoie quoi. Il y a quelque chose de très très authentique et sincère. Voilà, c'est pas maquillé. Ça me fait penser aux vins que j'adore par ailleurs, mais qui sont pas du tout du même coin, de Marcel Joubert, les cuvées nature, sa cuvée, je sais plus comment elle s'appelle, hein, en gamay pour le coup, c'est complètement différent comme cépage, mais il y a ce côté. Voilà, ça t'envoie un message qui est franc du collier, qui t'en met plein la bouche et tu prends du plaisir, c'est immédiat et c'est pas jus de fruits, c'est autre chose que du jus de fruits. Il y a quelque chose, il y a une puissance aussi qui peut plaire ou moins plaire, mais j'avoue que moi aussi je suis hyper fan de ce genre de vin.
On est sur un vin à quoi, 10€, 15€ à peu près. On est à moins de 20€ quoi.
On est à moins de 20€.
C'est l'entrée de gamme.
Tarif cavis, ça c'est sûr. Oui, oui, tout à fait.
Oui. Okay. C'est sérieux comme vin.
Très joli vin.
Bravo.
Ben, je suis ravi que ça vous ait plu.
Hein. Je suis resservi.
Revenons à la tulipe rouge. Donc du coup, juste pour avoir une idée du modèle économique, tous les revenus de... Du coup, tu as créé une société, j'imagine. C'est une société commerciale qui a vocation à être rentable, voilà, à durer, donc à être rentable. Donc il y a l'apport des vignerons qui donc envoient leurs échantillons, même si c'est peu par échantillon. Voilà, si tu dis qu'il y a 8000 bouteilles, 8000 fois 60€, ça commence à faire une certaine somme. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres modes de financement? Et après on parlera aussi de qui te lit et quel est l'intérêt pour ceux qui lisent, puisqu'il y a la France et il y a l'export. Alors, comment ça marche?
Il y a une autre ressource qui est la publicité, mais qui n'est pas la publicité sur le vin. C'est-à-dire qu'on a, pour bien comprendre, le web, c'est du flux. C'est-à-dire que si tu génères beaucoup de passages, ce qui est notre cas actuellement, tu peux attirer des annonceurs. Et notre volonté profonde, c'est de rajeunir un peu le lectorat de la critique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même une clientèle vieillissante qui n'est pas renouvelée. Il y a une rupture générationnelle, alors que les cavistes réussissent à entretenir, faut quand même les remercier, parce que sans eux, ça serait quand même difficile, le monde du vin. Faut pas oublier ça. Donc, nous, si on peut mettre notre pierre à l'édifice en apportant un truc un peu sexy, qui s'appelle la Tulipe Rouge, avec un site, qui est dans l'air du temps, eh bien, on peut attirer ce genre de lectorat et donc attirer des annonceurs qui sont hors du vin. Ça c'est une des parties du business model. Après, il y en a une autre.
Du coup, quel type d'annonceur ? Des gens qui annoncent sur le site ?
Ouais, sur le site et sur d'autres médias avec qui on collabore. Alors, on publie entre 5 et 10 pages dans le magazine Régal, qui est le numéro 1 de la cuisine aujourd'hui en France. Il faut aller sur le site de la CPM. On est à 230 000 exemplaires vendus, ce qui est important. Hein. Cuisine Event France, en face, c'est 68 000, je crois. Donc, ça montre un peu la dimension du média. Et puis derrière, nous, c'est d'organiser des dégustations. Alors qui sont pas du tout vendus aux vignerons. Nous, on achète des vins aux vignerons et on fait déguster nos sélections à des gens qui sont amateurs à travers une communauté Tulip Rouge. C'est une partie du chiffre d'affaires qui est en devenir. Aujourd'hui, on est déjà rentable en l'état, hein, puisque le site internet est déjà amorti. On a eu deux très 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 bonnes années. Donc 2021-2022 étaient deux véritables succès, ce qui nous a permis d'accélérer en fait notre processus de digitalisation et donc d'avoir un site compétitif très tôt. Ma crainte au départ, c'était de rester un peu sur le papier et puis d'arriver tardivement sur le digital. Le site Tulip Rouge. J'aime bien cette parole que disent souvent les programmeurs. Tout ce qui est simple est compliqué, quoi. Avoir un site qui est flexible, facile d'utilisation, en fait, derrière, c'est une sacrée mécanique. J'ai pu m'en rendre compte quand on a dû rendre les fichiers de dégustation. On s'est fait reprendre maintes et maintes fois pour justement avoir quelque chose de très propre, de fluide et d'efficace. Donc ça coûte cher. Ça se compte en plusieurs centaines de milliers d'euros, hein, le site de la Tulip Rouge, pour parler chiffres. Un site comme Vivino, ça coûte très cher aussi, par exemple. Donc, c'est le ticket d'entrée est élevé, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a quand même un sacré temps d'avance sur nos, enfin, si on peut les appeler comme ça, nos confrères, nos concurrents, qu'importe, parce que digitaliser un guide, ça demande des moyens. Ça demande des moyens parce que derrière, la mécanique est compliquée et c'est du sur-mesure. C'est pas sur Wix ou One and One qu'on va faire un guide de la Tulip Rouge, c'est pas possible.
C'est quoi du coup le trafic aujourd'hui, à la fois alors parce que j'imagine c'est quoi les capteurs, c'est le téléchargement, parce qu'on peut télécharger les catalogues.
Alors
les guides. Ouais. Pardon.
On avait commencé par des guides papier, j'en ai pas parlé. La première année, moi j'avais insisté à tort, quoique ça se discute auprès de Fabrice, pour avoir des guides papier. Je voulais qu'on tente l'aventure papier. On s'est rendu compte que c'était voué à l'échec, hein, faut dire les choses, et que tout se passait sur le digital. Mediapart, Le Monde l'ont compris depuis des années. Moi, je viens du Sud, donc je suis un peu têtu, j'ai voulu quand même essayer, je me suis cru plus fort que tout le monde. Bon, j'ai vite compris que ça marchait pas. Je crache pas sur le papier, je pense qu'on y reviendra, mais sous une forme à réfléchir pour l'instant. Donc on a réussi à avec nos quatre profils à réunir un fichier qui compte aujourd'hui 70 000 personnes, hein, qui vont sur le site régulièrement. Alors on a après un flux annexe qui est pas mesuré pour l'instant, puisque ces 70 000 personnes sont abonnées à la newsletter, donc c'est ce qui nous permet de les comptabiliser.
Donc c'est la communauté, la Tulip Rouge, voilà. 70 000 voilà. Contacts.
On est en gros 50-50 France étrangers et on a 55 pays référencés. Alors quand je dis 55 pays, c'est peut-être une personne en Angola. Hein. Ça compte pour un pays, bien entendu. Donc c'est beaucoup.
Nous aussi, ils nous écoutent en Angola, cette personne. On les salue.
Voilà, pour nous, c'est génial parce que le pari de la traduction était un pari financier risqué. Ça coûte très cher de traduire. Qui plus est, lorsque c'est une traduction spécialisée. Donc c'était pas un investissement vain. Mais qui nous a permis d'exister dans ces pays-là.
Et alors, qui vous lie à l'étranger ? Des amateurs de vin ou des professionnels surtout ?
Alors des professionnels, on a d'ailleurs, je ne les ai pas là, mais on a référencé des messages que nous envoyaient, des messages de sympathie que nous envoyaient des importateurs, d'un dont je me souviens très bien, qui disait « Enfin un guide qui correspond à la réalité ». Ça m'a beaucoup touché parce que c'est exactement ce qu'on voulait faire. Se rapprocher des sélections qu'on retrouve chez les cavistes, quoi. Parce que, en réalité, le marché, c'est vous, hein, c'est pas nous. Hein. Nous, on est un go-between, hein, pour faire un anglicisme. Et effectivement, quand je vois une verticale d'Emmanuel Rouget face à l'arôme un essai vivant. Je me dis
deux caisses, s'il vous plaît, voilà. Deux caisses.
Qui boit ça à part Ficofi, quoi, hein, si on délie les langues. Donc moi je suis ravi de voir qu'on correspond à la réalité et au marché. Voilà.
Donc un importateur canadien, suédois, lit la tulipe rouge, ça lui permet d'avoir une connaissance un peu fine, une sélection de vins en tout cas dans laquelle il peut découvrir des cuvées, des domaines et peut-être se mettre en relation avec le domaine ou il passe par vous pour être en relation avec le domaine.
Alors il y a deux questions là. La première, c'est, je pense qu'on est plus un outil de veille. J'ai pas la prétention d'être la Bible qu'on doit lire tous les mois pour savoir où on en est. Mais en tout cas, je pense qu'on participe dans l'univers d'un prescripteur, qu'il soit acheteur, importateur, sommelier, qu'importe. On participe à sa veille. Donc en lisant la tulipe rouge, il va peut-être découvrir des domaines dont il n'avait pas connaissance, et j'en suis très heureux. De là à devenir le leader, j'ai pas cette prétention là. Tant mieux si on grossit, hein, mais ça me frayerait presque. Moi, je là-dessus, en tant que critique, je suis pour le pluralisme. Je souhaite qu'il y ait d'autres voix à écouter. Ça me semble un peu risqué, présomptueux d'être considéré comme le seul et unique dicteur de bon vin. Pour la deuxième question que tu posais, c'était laquelle d'ailleurs, j'ai oublié.
C'est le troisième. Une question. Comment enfin, le caviste suédois ou l'importateur, il voit des articles, ça lui donne envie de goûter les vins. Ouais. Comment il accède à ces vins? Est-ce qu'il va les chercher sur Internet? Est-ce qu'il peut vous contacter vous pour dire mettez-moi en relation avec le domaine?
Alors il ne contacte pas nous, mais il contacte le vigneron via le site. Sur le site, on a différentes rubriques informatives. La première, c'est alors on a mis les certifications. Je prends le vin de Laurent là qui était en bio. Bon, ben, par exemple, ce domaine se verra estampillé d'un pictogramme agriculture biologique parce que ça fait partie des critères d'achat tout simplement. Bon, je suis pas là pour dire si c'est bien ou mal, mais en tout cas, voilà, ça, cette information est communiquée sur le site. Et puis il y a plein de pictogrammes qui indiquent accueil au domaine, vente au domaine, langue parlée, etc. Et une case contacter le domaine. On a tous les emails des vignerons, donc il suffit de cliquer et la personne peut rentrer en contact avec le vigneron.
Le vigneron sait que c'est via la tulipe rouge qu'il a été contacté ?
Alors il peut, mais il faudrait qu'il soit quand même sacrément doué en informatique parce qu'il y a un petit bloc.
Oui, ou alors c'est celui qui contacte qui lui dit peut-être. Oui, mais c'est pas une obligation. Vous n'êtes pas un prometteur qui va prendre une dîme sur la transaction, par exemple.
Non, absolument pas.
C'est important de le dire.
Ça c'est à partir du moment où le vigneron est sélectionné, tout devient gratuit. Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois pas que le prix fasse la valeur de l'information. On a beaucoup entendu ça dans les médias, où parce que c'était payant, ça donnait de la valeur à l'information, mais dans ce cas-là, tout le monde peut mettre un prix. Et dans ce cas-là, toute information a de la valeur. Je fais un raisonnement par l'absurde, mais c'est exactement comme ça qu'il faut comprendre la chose. Donc, moi, je pense que le fait qu'on soit gratuit ne dévalorise absolument pas notre contenu.
Tu vois ce que je veux dire?
Oui,
c'est-à-dire que bien souvent sur le web, il y a une fausse gratuité. Il y a une gratuité. Ah, oui. Et ensuite, il y a un pourcentage sur la mise en relation.
Oui.
Donc, c'est pas votre modèle.
Tout est gratuit. Ils peuvent, et puis, très, très honnêtement, si on a des pros qui nous répondent, qui nous posent des questions, on leur répond. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout aussi longtemps qu'on a le temps de faire ça, mais c'est pas du tout. L'enjeu, c'était vraiment de redonner ses lettres de noblesse à la critique. Après, on vit dans un monde qui est celui où on vit, faut rendre des services. Donc, on n'est pas dupes, hein. Le web, il y a de la gratuité, on rend des services, on fait un site efficace, et c'est grâce à la participation massive des vignerons qu'on a pu faire ça. Mais c'est leur outil, c'est pas le nôtre. Moi, si je dois gratter des centimes ici et là, ça sera sur des dégustations, sur de la publicité annexe, etc. Mais voilà, on est là-dessus, on est très clair et on est surtout très rigoureux parce que on sait que c'est ce qui fait notre succès aujourd'hui. Donc, on n'en démord pas.
C'est un guide donc annuel.
Ouais, c'est ça.
Donc, ça veut dire que chaque année, ce sont donc les vignerons qui envoient les échantillons, mais du coup, je pense notamment à certains échantillons qui seraient peut-être passés à côté et pour lesquels vous auriez donc communiqué discrètement avec le vigneron, avec des commentaires qui peuvent faire que l'année suivante, il peut vous représenter le même échantillon. On peut retrouver du coup une année suivante un échantillon, enfin des nouveautés du coup, et qui ne sont pas seulement parce que ce sont des vins présentés pour la première fois, mais des vins présentés peut-être l'année précédente et qui étaient en fait qui ont peut-être, je sais pas s'ils vont respecter, enfin écouter vos conseils, puisqu'en fait vous n'êtes pas vigneron, enfin après c'est, mais en revanche
Ah, qui reviennent en deuxième semaine.
Ouais, ils retentent l'expérience.
Bah oui, parce que ça dépend des commentaires.
De la personnalité du vigneron, je
mais,
pense. De,
non, absolument. Mais d'accord, mais il y a aussi
je
peut-être, je pense.
Absolument,
mais il y a aussi, je pense, le commentaire que vous pouvez en faire. Enfin, le commentaire qui peut être dit peut être quelque chose qui n'est pas, enfin, pas la porte pour toujours. Parfois, il peut avoir des.
Non, mais c'est tout à fait vrai. On sait très bien qu'en rendant des comptes au vigneron, on prend le risque de fermer une porte à jamais. Oui. Et ça arrive. Je veux dire, on a des vignerons qui n'admettent pas, sont dans le déni ou refusent de discuter avec nous suite à un commentaire, de, pas désobligeant, mais en tout cas, oui, c'est violent parce que c'est leur bébé. Hein,
bien sûr.
Moi, j'ai pris le pari de dire.
Mais vous ne publiez pas, vous leur envoyez qu'à eux déjà, ouais, par rapport à un article, une mauvaise critique.
Mais tu sais, dire la vérité à un vigneron, c'est toujours difficile parce que ils font le métier. Moi, je pense qu'ils font le métier extrêmement difficile.
Dire votre vérité.
Oui,
dire.
Quelle vérité?
Oui, j'allais le dire.
Oui, oui. Non, mais alors.
Bah, la vérité.
Être sincère, en tout cas. Voilà. Être fondamentalement sincère.
Dire votre vérité, absolument. Oui, je j'entends dans ce sens-là. Vous avez deux heures.
La vérité n'existe pas. Merci.
Non, pardon.
Il n'y a pas de vérité absolue, mais oui.
Non, mais
être sincère.
En disant ça, je pensais à un exemple tout bête. On a eu un vigneron qui a eu les deux échantillons bouchonnés. Bon. Il se trouve qu'on était dans le coin à ce moment-là, et on a appelé le vigneron. Hein. Il a dit, venez, dégustez vos échantillons. Donc, il a reconnu que les deux avaient été bouchonnés. Il était venu avec un carton de 6 pour voir si le lot était lui aussi bouchonné. On a goûté les 6 autres bouteilles. Les 6 étaient bouchonnés.
Le drame.
C'est un problème de bouchon, ce monsieur, peut-être.
Alors, pas un problème de bouchon, là, c'est une contamination d'ambiance qu'on appelle. C'est-à-dire, c'est l'environnement dans lequel le vin a grandi qui est contaminé et qui, par relargage, vient toucher le vin. Bon, ce monsieur nous en a voulu. Là, par contre, c'était pas notre vérité, c'était la vérité, puisqu'il y avait analyse derrière. Bon. Ça, on n'y peut rien. Mais
je vous remercier d'avoir mis en évidence un problème de fond de.
Alors certains le font.
De sa cave.
Certains le font parce qu'ils ont compris que c'était dans leur intérêt. D'autres, mais tu sais, c'est violent. Enfin, moi, je peux comprendre ça. J'en veux pas spécifiquement à ce vigneron. Je regrette juste qu'il n'ait pas compris que c'était constructif. On n'est pas là pour détruire, sinon on mettrait en ligne. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Donc, si on le fait en toute discrétion et qu'on s'adresse uniquement aux vignerons, c'est dans ce but-là. Donc évidemment, tu as des gens qui refusent d'admettre, hein, tu as ceux qui sont prêts à écouter et à se dire « ça va m'aider », et tu as ceux qui, alors là, c'est là où on parle de notre vérité, ceux qui nous confrontent aux autres médias et qui nous disent « mais j'étais sélectionné dans un tel et j'ai eu 2 étoiles, machin ». Bon, comme on leur répond à chaque fois, c'est pas à nous de juger la valeur des autres médias. C'est à vous de me faire une opinion sur la qualité de la sélection et l'intérêt à être sélectionné. Donc, là-dessus, on est un peu confronté à cela, mais c'est normal. Hein, je veux dire, y a des... voilà, James Suckling qui distribue les 95 à l'appel. Bon, ben, très bien. Moi, je me permets de le chambrer parce que il est américain, évidemment,
mais de toute façon, enfin, je pense que chaque média a sa sensibilité. Enfin, à un moment donné, quand il fallait plaire à Parker,
évidemment,
il fallait
faire des copeaux.
Voilà, il fallait soit on décidait d'aller dans le sens de ce qu'il aimait, soit on décidait d'être soi-même et puis de finalement ne pas être bien noté. Après, voilà, je crois que chacun a son libre arbitre sur le sujet de savoir s'ils veulent être dans la tulipe rouge ou pas et s'ils veulent tenter l'expérience ou pas.
Moi, juste pour rebondir sur, c'est un guide annuel. Si on fait la Bourgogne l'année dernière et la Bourgogne, vous avez revisité tous les domaines. Vous prenez 90% de ce qui existe et vous bougez 10%. Enfin, comment ça se passe?
Alors non, y a aucune année qui se ressemble. Alors, je le dis ça modestement puisque c'est que notre troisième année. Hein. On est tout jeune. Donc effectivement, ça c'était la deuxième partie de la question. D'une année sur l'autre, on a des gens qui reviennent. En général, c'est ceux qui ont été très bien sélectionnés. Ceux-là prennent plaisir à représenter des
échantillons. Mais vous repartez de zéro, quoi. Vous partez de zéro.
Bien sûr. Okay, j'ai aucun a priori sur le...
Alors, quand on dit on repart de zéro, ça veut dire que, enfin, comme tu l'expliquais, les histoires d'ODG, corrige-moi si j'ai pas bien compris, mais par exemple, sur la Bourgogne, comment ça marche? Est-ce que c'est l'ODG de Marange qui va réunir enfin les échantillons sur de ceux qui ont bien voulu participer sur cette appellation que tu vas aller goûter à Marange? Comment ça fonctionne?
Alors ça fonctionne déjà de manière tout à fait spécifique à chaque région, hein. Soit on passe par les ODG, soit on passe par les interprofessions, ça dépend de l'organisation syndicale de ces institutions. En l'occurrence pour la Bourgogne, c'est le BIVB qui centralise. D'accord. Tout, hein. On n'est pas les seuls, hein. Le Guide Hachette, la RVF viennent aussi au BIVB.
BIVB,
Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne. Alors c'est le Bureau interprofessionnel et technique des vins de Bourgogne. C'est une entité spécifique.
Magnifique organisme qui a énormément d'argent pour promouvoir les vins de Bourgogne.
Avec un bâtiment qui ressemble au FSB, mais les gens sont très sympathiques à l'intérieur. donc c'est là les gens qui se sont inscrits. Nous on a un fichier d'inscription qu'on envoie au BIVB qui croise avec les échantillons qui ont été déposés, qui nous permet de vérifier les retardataires éventuels. Et à partir de là, c'est eux qui s'occupent de mettre à l'aveugle et de nous présenter les vins. C'est-à-dire qu'on a deux personnes que je vais citer, Hervé Bianchi et Christophe Gamet, qui sont des gens adorables et totalement dévoués à la tâche, hein, qui s'occupent pas que de nous, mais de tous les médias qui sont sollicités par le BIVB. Et Hervé, avec un chariot, nous pose les bouteilles déjà habillées et nous, on ne sait pas ce qu'on déguste, quoi.
D'accord.
Alors, on a l'information sur le millésime, ou voilà.
Et donc là, le millésime 2023 de la Tulipe Rouge, ouais. Ça va se passer à quel moment, là, au BIVB?
Alors, on a fait un premier lot, là, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, sur 2021. On a fait un deuxième lot parce qu'il y a des mises en bouteille qui sont tardives, hein, aussi. Donc, les deux premières années, on s'était pas embêté avec ça. Cette année, vu le volume, on est obligé de faire deux appels parce que sinon, on s'en sort pas. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, hein, mais on doit aussi gérer l'agenda de mise en bouteille des vignerons, ce qui est pas chose facile. Et donc là, d'une année sur l'autre, alors t'as des fidèles, hein, ceux qui sont acquis à la cause, tant mieux pour nous, on est très heureux. Tu as ceux qui vont tenter, qui mettent une bouteille. Comme ça, c'est rigolo. Parfois, c'est une très bonne surprise. Il y a ceux qui, tout d'un coup, adhèrent et mettent trois bouteilles. T'as ceux qui ont été retenus pour partie. C'est-à-dire qu'ils ont déposé trois bouteilles et il y en a une qui n'a pas été retenue, mais ils représentent à nouveau trois bouteilles en espérant que cette fois-ci, le millésime va passer. Donc, en fait, il y a tous les profils.
Oui, il y a un renouvellement.
Ouais, il y a un renouvellement, c'est très intéressant pour nous.
Parlons de ce vin, ouais. On a au moins, ça fait déjà une heure qu'on parle et on a encore des vins à goûter. Celui-là, il est très chouette. Et c'est quoi?
Ah, ça, c'est
un vin rouge.
On va laisser Patrice en parler, notamment de l'appellation.
Luberon?
Ah, ouais.
On a appris, on est allé dans le Luberon.
Ouais. Non, c'est un 2018
du
château de la Canorque, hein, c'est ça?
Oui.
Ouais. Effectivement, c'est tout en finesse, tout en élégance, tout en dentelle.
19,
pardon. Okay. Donc non, c'est un...
Qu'est-ce qu'on peut dire de ce vin?
Alors, chez nous, c'est un... Or, c'est un domaine qui est quand même... comment dirais-je, qui n'est pas connu au sens...
Mais connu dans l'appellation, quand même.
Ouais, connu de l'appellation, c'est un... c'est un peu le pape de l'appellation, quoi, voilà. Mais qui n'est pas forcément très très présent dans les médias, à tort. Chez nous, c'était un coup de cœur absolu, évidemment. Et c'est un, j'ose le dire, hein, c'est un chouchou pour moi parce que quand je suis allé là-bas, j'étais très ému. Je rebondis sur ce que dit Laurent. C'est très important les paysages et de voir l'endroit. Une fois qu'on a dégusté le vin, en fait, hein, qu'on s'aperçoit pourquoi le vin est aussi grand, aussi beau, ben. Il faut voir les personnes qui sont des gens magnifiques. Le paysage est somptueux. C'est un mélange de... C'est un joyeux bordel organisé. Mais en fait, tout est savamment pensé dans le
domaine.
L'agencement des terrasses, de vignes et des jardins. Ce sont des gens extrêmement accessibles, francs, qui n'ont rien à cacher sur leur domaine. C'est un des tout premiers domaines en biodynamie dans le Luberon. Ils ont cru très tôt à ce type de viticulture.
Tiens, je rebondis là-dessus. Vous avez des préférences, des partis pris sur le bio, la biodynamie, méthode nature, pas soufré. T'en as déjà dit un petit mot, mais vous êtes complètement œcuménique. Vous prenez tous les échantillons qui sont présentés et à l'aveugle, vous donnez un avis sans a priori. Absolument. Juste en ajoutant les
ils prennent que les échantillons de vin, par contre.
On pourrait imaginer la bière.
Absolument. Le label, pour moi, n'est pas un sujet. Nous, on goûte le vin. Après, je comprends que ça soit un enjeu, parce qu'on est citoyen. Moi, je suis citoyen. Je fais attention aussi à ce que j'achète et ce que je bois. Donc, je peux tout à fait entendre qu'un un consommateur, un amateur de vin ou un professionnel attache de l'importance à telle ou telle certification.
Est-ce que si je dis, parce qu'une des autres remarques du site, c'est de dire on est des guides, on n'est pas des professeurs.
Absolument.
Je pense que c'est un peu ça aussi. C'est, vous êtes un guide du vin d'un point de vue esthétique. Mmh. Vous ne donnez pas de leçons, entre guillemets, de morale ou de pratique.
C'est le problème.
C'est le parti pris, quoi.
Ouais, c'est le problème un peu en France, c'est qu'on a un journalisme d'opinion. On n'a pas un journalisme d'enquête, c'est pas vrai. Enfin, on en est à la quatrième bouteille, donc je vais me lâcher un peu, mais quand t'écoutes Élise Ducet...
On les a pas vus en entier non plus, hein, n'exagère pas.
Hein. L'émission sur France 2, c'est de l'opinion. Je veux dire, elle mène une enquête, mais à la fin, elle donne une opinion. Quoi qu'elle en dise.
Elle mène son enquête en ayant déjà une opinion, de toute façon.
Oui, on aurait pu le dire plutôt comme ça aussi.
Comme tout journaliste, non? C'est
non,
ça que tu veux
France,
dire?
Non, en France, c'est comme ça. Dans les pays anglo-saxons, c'est pas du tout comme ça. C'est des journalismes d'enquête. Après, il y a des journalismes d'opinion, il y a des magazines d'opinion. Mais il existe encore un journalisme d'enquête. Et le problème que l'on a, c'est que la critique française est faite par des journalistes. Donc, on a un journalisme d'opinion. Donc, on a un parti pris qui est tout à fait respectable et légitime, mais encore faut-il en avoir conscience. Donc, il y a des magazines qui sont pro-bio, pro-biodynamie, pro-nature, pro-conventionnel. Sans les citer, je pense que vous êtes tous capables de mettre des noms ici sur ces médias-là. Moi, je fais de la critique. Voilà. Donc, mon rôle, c'est pas de décider si un vin est plus noble, s'il est en bio ou s'il est en HVE. C'est pas mon sujet. J'ai mon opinion en tant que citoyen. J'ai mon opinion profonde, j'ai des convictions, mais je n'ai pas à les exposer dans l'exercice de la critique. Moi, je déguste. Voilà. Après, si le vin me file un mal de crâne terrible, bon, peut-être que je vais regarder à deux fois.
Tu vas reprendre le lendemain ton commentaire.
Mais non, plus sérieusement, je pense pas que ça soit notre rôle. Voilà. Je me détache de ça. Par contre, on donne de l'information. Parce que, encore une fois, je pense qu'on a le droit d'y attacher de l'importance.
Par rapport au guide, j'ai regardé le site, j'ai vu 8 guides, me semble-t-il, 8 régions.
Ouais.
Donc, pourquoi il n'y a pas encore l'Alsace? Pourquoi il n'y a pas encore
le Sud-Ouest? Il y a le Sud-Ouest.
Ouais, l'Alsace. J'ai pas vu l'Alsace. Si.
Non, alors, tu as raison.
Dis-nous les régions dans lesquelles la Tulip Rouge est disponible.
Alors, on a commencé modestement en Savoie, Jura et Alsace, sans aller au bout parce qu'on n'avait pas un nombre d'échantillons suffisant la première année sur ces régions.
Elles seront regroupées a priori.
Oui, puis il y a eu, faut pas oublier qu'on était en plein Covid à ce moment-là. Mm-hmm. Et pour te citer juste un exemple, donc l'hiver 2020-2021, 15 jours avant les fêtes de fin d'année, notre gouvernement chéri annonce la fermeture des stations de ski. Sachant que la Savoie fait 80% de son chiffre d'affaires pendant la saison d'hiver. Bon, les vignerons ont dit, on est à 60 euros près. Oui, ça va être compliqué pour nous, quoi. Donc, on a raté cette saison. Le Jura, il y avait un changement de direction à ce moment-là. Et puis, on a pas réussi à avoir assez d'échantillons pour faire les guides papier. Parce qu'à cette époque-là, on est encore sur les guides papier, quoi. Alors, donc là, cette année, on a ouvert à l'Alsace, au Jura et à la Savoie et on va voir comment ça démarre. Pour l'instant, on n'a pas encore commencé les dégustations.
Donc aujourd'hui, 8 régions, donc une grande région Alsace, Jura, Savoie, ensuite.
Alors en fait, maintenant, on les fait toutes là.
Donc la Champagne.
Alors, Champagne, il n'y a pas Champagne, j'ai pas fait.
Ouais, la Champagne, on la commence que cette année parce que je voulais attendre un petit peu pour être prêt, faire les choses sérieusement.
La Loire.
Alors, celles qui sont là depuis le début, c'est Loire, Sud-Ouest, Roussillon, Languedoc, Provence, Vallée du Rhône, Nord-Sud, Beaujolais, Bourgogne. Et là, il nous reste Champagne, Alsace, Jura-Savoie. On en a commencé un peu là.
Et la Corse Savoie.
La Corse était déjà
dans la Provence.
Provence.
Ah. Non, on sépare.
Ah,
on sépare.
2022, c'est Provence-Corse.
Oui, c'est Provence-Corse.
Oui, le guide papier, ouais, absolument.
Oui,
absolument.
Oui, pas
je parle
du guide.
Oui, absolument.
Non, mais après dans le site, le moyen, c'est qu'on peut... C'est la force du site, c'est qu'on peut sélectionner comme on veut.
Ouais,
on peut taper Corse, on peut taper par cépage, on peut taper... Et c'est ça, trouve, qui est très bien. Ces clés de lecture sont multiples, quoi.
Quelles infos on a sur chaque vin? Il y a des notions, des propositions... Il y a la note de dégustation, ce que je comprends. Il y a un prix.
Alors, il y a une tranche de prix.
Une tranche de prix.
Là aussi... par respect pour, je parle beaucoup des cavistes ce soir, mais on peut pas maîtriser le prix exact, donc on essaie de donner des tranches de prix qui sont choisies par le vigneron, c'est lui qui indique la tranche de prix. Il y a une garde qu'on estime, encore une fois, c'est une estimation, c'est pas une apogée, c'est une garde. Parce que moi, je ne sais pas si les gens veulent boire du vin sur le fruit ou un vin vieux, ça dépend des goûts. Il y a toutes les coordonnées des vignerons, évidemment, téléphone, adresse, etc. L'encépagement, lui aussi fourni par le vigneron. On a toutes les langues parlées. Si le vigneron accueille au domaine, vend au domaine, vend à l'export, il y a des pays export aussi. Il y a également, s'il a un gîte ou des chambres d'hôtes, etc., on peut le contacter directement. Et il y a toutes les bouteilles en photo.
Et sur le vin lui-même, les accords, par exemple, oui. Des suggestions d'accords.
Oui, alors, on a mis des accords dans le commentaire. On va bientôt les matérialiser grâce à notre partenaire Régal via des recettes toutes faites, via un onglet qu'on a encore gardé sous le bras, où on pourra choisir ce qu'on veut manger avec le vin. Et donc, une recette qui sera proposée in fine. Donc ça, c'est
Le site n'est pas tout à fait fini sur cette...
Non, parce que c'est un très long travail. On voulait quelque chose d'un peu original, encore une fois, là-dessus. Si c'est juste pour dire avec des viandes blanches, bon.
Et à quoi correspond la notion?
On chasse beaucoup et du coup on aime bien
la notion de palmarès. Alors entre les chines encore et les tulipes, c'est quoi ça?
Alors je vais rendre quand même à César ce qui est à César. Je cherchais une façon de représenter des catégories de vins, comme je vous le disais au tout début de l'émission, entre ce fameux Conturon et cette fameuse Romanée Saint-Vivant qui finira par arriver sur le plateau. Chin, c'est le vin facile à boire qu'on partage à tout instant. Encore, il y a un peu plus de matière et donc...
C'est le glou-glou.
Ouais, une invitation à table. Et puis la tulipe, c'est finalement notre graal à nous.
Avant qu'on oublie cette question, pourquoi la tulipe rouge, d'où ça sort?
Ah, mais ça fait au moins une demi-heure que je voulais poser cette question.
Bravo, bravo. On ne peut pas se quitter sans que tu nous dises, mais d'où ça vient cette idée de tulipe? Fanfan, la tulipe, peut-être?
Si c'est pas le vert, j'ai pas compris.
Alors ça,
c'est le vert de vin rouge?
Ça, c'est le petit sobriquet qui m'a été attribué depuis l'existence de ce guide, Fanfan, donc je suis ravi.
Ah oui.
J'avais pas du tout vu ça arriver, mais bon, c'est comme ça. Non, la tulipe rouge, alors moi je voulais pas un guide Bordeaux-Beaugrand, Fabrice s'appelle Fabrice Beaugrand, je voulais pas un guide nominatif, on n'est pas Dieu le Père, donc je voulais quelque chose...
Sur le réseau, il s'appelle Beaugrand Vin d'ailleurs.
C'est sa petite activité à côté. Moi je voulais un guide qui nous échappe, et la référence est simple, tulipe c'est le vert tulipe, comme ça qu'on est en train d'utiliser, et rouge pour la couleur du vin qui est quand même encore aujourd'hui majoritaire, mais qui aussi illustre la couleur de la passion. Voilà, alors, on est avant tout des passionnés. Donc, je trouvais le nom sympathique, intrigant. Donc voilà quoi.
Ok.
Après, j'avais pas terminé sur le sujet des pictos, vite fait. On a piqué ça. Enfin, j'ai piqué ça. Je me suis inspiré du fooding. J'ai trouvé génial l'idée du fooding de semer un peu le trouble dans la sélection. Après tout, ce qui compte, c'est est-ce que tu fais confiance au guide ou pas. La note, c'est autre chose. Mais est-ce que déjà t'as confiance au guide? Et je trouve que le fooding, en fait, a juste dit. Voilà, on est capable de vous recommander un hamburger comme on est capable de vous recommander un 3 étoilés Michelin. Et j'ai trouvé ça malin, j'ai essayé de mettre ça à notre sauce et on a créé ces fameux pictogrammes que tu as cités.
C'est plus démocratique, ça cantonne pas l'acheteur à une CSP ou...
On n'est pas professeur.
J'ai pensé au fooding justement sur cette dimension-là qui est que ne sont référencées que des choses qui valent le coup. Et c'est une des grandes particularités du fooding par rapport à pas mal d'autres sites sur lesquels on va trouver tout le monde référencé, La Fourchette, pour en citer d'autres. Il y a le pire et le meilleur. Et le fooding, le parti pris, c'est tout ce qu'on référence, c'est quelque chose qu'on aime. Après, c'est plus ou moins, il y a des niveaux d'attente. Mais en gros, c'est le guide sur lequel, si on cherche un restaurant, on va pas se tromper. Je vais pas faire de pub pour le fooding, ils ont pas besoin de ça. Mais il y a ce point commun-là de dire, c'est déjà une clé d'entrée. Si t'es là, a priori, tu vas pas te tromper. Il y a que des bons vins.
C'est exactement ça.
Tu peux y aller. Après, il va y avoir plusieurs niveaux d'exigence et d'attente, plusieurs niveaux de prix aussi. Mais au moins, il y a un standard minimum qui fait que le vin est là.
Je rebondis un peu sur la question qui m'était posée tout à l'heure sur les notes sur 100. Je veux dire, pour moi, elles sont là de façon transitionnelle parce que ce qui compte, c'est la tulipe rouge. C'est le message qu'on veut arriver à installer dans la tête des lecteurs en leur disant si c'est là, c'est pas par hasard. Et si c'est là, c'est un peu comme le Louvre. Hein. Encore une fois, on n'est pas des professeurs en vous disant vous devez boire ça et pas ça. Quand on va au Louvre, si on est accompagné d'un historien de l'art, il va nous expliquer pourquoi Pirandello, c'est un tableau intéressant. On l'aime ou on l'aime pas, ça on peut pas deviner. Hein. Voilà, la Joconde, je pense qu'il y a pas grand monde qui veut l'accrocher dans sa cuisine aujourd'hui. Hein. Pourtant, c'est un chef-d'œuvre. Donc, je te fais un petit clin d'œil. Donc le sujet c'est ça pour nous, c'est de dire voilà, là vous avez la Joconde. Maintenant, vous voulez la regarder, la déguster avec les yeux, pourquoi pas. Mais je suis pas là pour vous dire, vous devez absolument aimer ça. Ça, personne n'est capable de faire ça.
Alors, c'est la Joconde ou c'est Guernica, notre joueur là? Ah non, vas-y Valérie.
Je vais juste faire un petit commentaire sur ça. C'est vraiment un point pour moi. Enfin, je le vis au quotidien dans mon métier de caviste. C'est tellement important, je trouve, cette notion de catégorie. Le bon vin dans une catégorie. Bien et ça, c'est quelque chose que je trouve ça très intéressant, en fait. Parce que c'est, voilà, quand on parle de bon vin, etc. Et donc là, l'idée de se dire, voilà, il y a des catégories, il est bon dans sa catégorie. Et ça, c'est quelque chose que je répète quotidiennement. Et je trouve ça...
D'ailleurs, quel est votre panier moyen chez vous? Vous le connaissez à peu près? C'est quoi le prix moyen d'une bouteille?
La terre à boire, c'est gratuit. Hein.
Ouais.
Les éditeurs ne paient pas.
Non, moi, j'ai toujours une barre... J'ai deux catégories. Moi, j'ai une catégorie où j'ai toujours mon vin entre 15... Enfin, entre... Je pense qu'en toute 15, c'est compliqué. Mais...
Chez le caviste, hein.
Oui, oui, 15, oui, mais 15 et 20 euros. Non, mais parce que je suis pas suffisamment consommateur. Enfin, moi, je bois du vin que le week-end et sur des occasions. Ouais. Donc voilà. Donc je trouvais un petit peu un côté sympathique, ce qui n'empêche pas des vins gloulous. Hein. Mais voilà, si je vais sur un Beaujolais, j'irai peut-être chercher ce qu'on est en train de boire, un Morgon.
Merveilleux.
Qui est splendide. Ouais. Là-dessus. Donc voilà, mon panier, il est autour de 15-20 euros. Et puis quand j'ai envie de me faire plaisir, je me fixe une barrière à 50. Voilà.
Et toi, Laurent,
moi, il y a longtemps que j'ai pas acheté de vin.
Non, mais c'est ça le problème.
Ton prix, ton client,
alors, moi, la consommation, elle se fait quand même plutôt sur place. Donc, c'est un ensemble. Hein. C'est au verre, c'est avec une planche, etc. Donc, c'est difficile. Mais enfin, en tout cas, moi, je propose des vins qui sont au verre entre 6 et 8 euros. La proposition au verre, elle est entre 6 et 8 euros le verre. Ça, c'est au moins ça, c'est très clair. Mm.
Moi, je rejoins un peu Patrice sur le côté il y a deux tranches quoi. Si je veux vraiment parce que moi longtemps notamment avant de commencer un podcast sur le vin où j'ai appris quelques trucs au passage, le prix c'est la première entrée en fait, c'est-à-dire prendre aucun risque. Alors il y a quelques années, prendre aucun risque c'était prendre un vin à 30 euros. Je savais que j'avais un super vin. Aujourd'hui, je pense que cette barre elle est plutôt à 45 ou 50. Et là, on est sûr de se faire d'épater la galerie, entre guillemets, de faire vraiment un truc qu'on ne boit pas tous les jours. Et après, pour se faire plaisir au quotidien, je dirais plutôt autour de 10, 15. Là, je suis content d'avoir un vin qui est à 10 euros, voire même moins de 10 euros quand on l'achète au domaine. On se fait plaisir. Voilà.
Moi, je suis d'accord.
Valérie, toi non plus, tu n'achètes pas de vin, tu en vends.
Oui. Je suis un peu. Je pense qu'on peut se faire plaisir encore aujourd'hui, même si c'est très difficile ces derniers temps, parce que, voilà, sur cette dernière année, j'avoue que c'est compliqué, et ça, c'est très clair. Et quelle que soit la région, pour autant, je pense qu'on peut encore, sur certaines régions, se faire vraiment plaisir encore, sans que ce soit un glou-glou.
Autour de 10 balles.
Autour de 10 euros. Voilà. Ça existe encore. C'est pas évident, mais on peut encore.
Sous-estimer.
Oui. Et pourquoi cette question, Olivier? Parce qu'il y a un questionnement, parce que justement, le guide était plutôt avant, enfin, quand je dis avant, c'est jusqu'à 2022, à moins de 20 euros de manière générale, même pour la Bourgogne. Hein, et je pense que quand on regarde le guide Bourgogne, enfin, qui est en ligne.
C'était un parti pris avant. C'était un parti pris.
Quel est le nouveau parti pris, du coup, et quel est l'avenir de.
En réalité,
de la tulipe.
L'évolution de la tulipe rouge sur toutes les catégories de prix désormais, c'est parce qu'en fait, on s'est doté d'un outil digital et que par la sélection prix, on peut garder cette partie des vins à moins de 20 euros, leur donner une existence en cochant tout simplement la case sur le site. Chose qu'on ne pouvait pas faire avant dans les guides papier. C'était très compliqué de donner ces portes d'entrée par le prix, par le cépage, etc. Et oui, le prix reste le choix majeur. Quand on regarde sur le site, sur le back-office, on voit que le prix est le premier critère de sélection, de toute évidence. Pas forcément toujours en dessous de 20 euros, c'est ça qui est assez amusant. On est plutôt entre 10 et 20, même 15 et 20. Et après, on a une tranche entre 20 et 40 qui est quand même assez régulièrement explorée. Donc non, la seule raison, elle est technique, en fait. C'est que grâce au site, désormais... On peut continuer à faire un focus sur les vins à moins de 20 euros tout en ouvrant aux vins plus chers.
Finissons avec le quatrième vin, parce qu'on a déjà, ça fait longtemps qu'on parle.
Remarquable aussi. Hein.
Et je suis super content de finir sur un Gamay, c'est un Morgon 2017. Oui, Valérie?
Non, je vais juste faire un.
Tu veux prolonger, vas-y.
Non, juste.
J'essaye de finir cette émission, mais tu veux la prolonger, il n'y a pas de problème. Ouais. Tu es la bienvenue.
Non, c'était juste par rapport au champagne. Je pense que ça va être compliqué, effectivement, de trouver là moins de 20 euros. Voilà.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Bref, c'était juste ça.
C'est vrai.
Je pense qu'effectivement, heureusement que c'est ouvert.
Il y a nos amis de champagne qui sont si abordables.
Une caisse de mums.
Ils n'ont pas la même garde, les gens. Les vins restent beaucoup plus longtemps qu'avant.
Non, mais je rejoins Valérie tout à l'heure sur les oui, des prix augmentent partout.
Quelle gentillesse.
Ce Morgon.
Ah.
C'est toi qui l'as apporté aussi, hein.
Ouais.
Une Côte du Pie.
Ouais, c'est une tuerie pour moi, ça.
C'est immense.
Magnifique.
C'est immense.
Oh là là. C'est le bouquet final.
Allez, le domaine, le profil, de quoi on parle. Domaine,
non ? Je pense que tout le monde le connaît, là. Hein. C'est Louis-Benoît des Vignes. C'est, pour moi, c'est un monument. Ça fait partie des grands vins de France et des grands vins du monde, puisque le Gamay est quand même majoritairement planté à Beaujolais, pardon. 2017, qui est une année excellente à Morgon. En particulier, c'est une très très grande année parce que ça conservait cette austérité, cette froideur du fruit dans les vins. Donc c'est remarquable. Je suis étonné parce que ça goûte assez bien. Je pense que ça serait plus fermé. Là, on goûte le Côte du Pie. Donc c'est pas son haut de gamme. Hein. Il y a encore dessus Gervernière, Roche et les impénitents. Impénitents. Mmh. Les impénitents, les fameux impénitents. Juste deux mots. C'est moi. Je vais vous laisser parler du vin, mais. J'aimerais faire une ode au Beaujolais, si tu me donnes une minute. Dans les années 30, c'était un des plus chers de France.
Envoyez la musique. Non, Beaujolais.
Mais... Ouais, là, je parle avec émotion un peu parce que c'est un vignoble qui me tient à cœur. Ils n'ont jamais fait aussi bon. Enfin, aujourd'hui, il y a des domaines remarquables. Les vins sont superbes, tout à fait dans l'air du temps, avec beaucoup de fraîcheur et des degrés d'alcool qui sont encore modérés, quoique ça commence à monter. Mais dans les années 30, c'est un des vins les plus chers de France. Faut pas l'oublier, ça. Il y avait des cartographes et des ingénieurs agronomes comme Danguier, Vermorel ou Butker qui avaient fait des cartes où ils classaient les crus en première classe. Je veux dire, le Pie, c'était en première classe. Chassignol, c'était première classe. Vous prenez les Mauriers, c'était première classe à Fleury. Donc, il y avait un classement parcellaire qui existait. Donc, ce qu'on attache toujours à la Bourgogne existait aussi dans le Beaujolais. Et parmi les grands vins, ceux de Moulin à Vent et Morgon rivalisaient sans problème en termes de prix avec les plus grands Bordeaux, les plus grands Bourgogne. Il y a d'ailleurs à l'époque un domaine que je ne citerai pas qui a refusé de l'achat du Clos de Tarbes au profit de parcelles à Morgon. Il m'en parle encore, hein, d'ailleurs. Hein. On sent que c'est pas encore passé. Donc c'est pour dire la réputation du Beaujolais à cette époque. Alors il y a eu le Beaujolais nouveau, certes, qui a entaché l'image, mais ça a quand même fixé les populations, sauvé ce patrimoine viticole. Et aujourd'hui, je suis ravi de le voir renaître de ses cendres et de voir le Beaujolais à ce niveau, à l'instar de Louis-Benoît des Vignes et Claude Emmanuel, sa frangine. Voilà.
Qu'on avait reçu dans cette émission, justement, à cet épisode, bien boire en Beaujolais.
L'année dernière.
Voilà. Beaujolard, même, plus précisément.
Ouais, non, c'est super. Oui. C'est magnifique, ça.
C'est magnifique. On est très fans de Beaujolais aussi, ici. Hein. Et le Gamay. Quand il est travaillé comme ça, c'est juste bouleversant.
Merci Olivier.
Merci pour ces belles quilles. Merci de nous avoir raconté cette belle histoire de la tulipe rouge. Voilà, donc on invite les gens à aller peut-être visiter un peu le site, les gens qui nous écoutent, j'entends, qu'ils soient amateurs ou professionnels, en France, à l'étranger. À Katmandou, en Ouganda, non? Comment t'as dit?
En Angola.
En Angola.
Ouais. www.tulipe-du6rouge.com, tout simplement.
-du6.
Et on sort en premier, de toute façon.
Expression. Mmh. Tulipe rouge, voilà, un site et un guide un petit peu à part dans sa proposition.
Et puis quand on s'intéresse au vin, c'est une super formation sur les termes organoleptiques en anglais.
Ouais.
Parce que les deux traductions sont juste en dessous, donc c'est un très bon apprentissage pour l'anglais.
Pour connaître tous les mots descriptifs du vin, mais c'est pas anodin ça quand on prépare des concours.
Moi j'ai une petite question, est-ce que les PDF donc, qui sont actuellement disponibles, est-ce qu'il va y avoir une bibliothèque des différents millésimes de ce guide ou on n'aura que l'année en cours?
Ah, c'est une question que je craignais.
Désolé.
C'est la question qui tue pour la fin et la garde pour la fin.
Joker.
On hésite à le faire parce que on a cette information, en fait, sur les fiches vins désormais où il y a un palmarès qui indique l'année de dégustation. Donc, on s'interroge sur la pertinence de créer des PDF annuels étant donné qu'on peut repérer l'année de dégustation directement sur la fiche vin. Donc, il est fort probable que ça finisse par disparaître. Sauf si on arrive à créer un éditorial riche qui pourrait donner une justification à ces PDF demain. Donc, work in progress.
Très bien.
Merci beaucoup Olivier Bourneuf, merci Laurent, merci Patrice, merci Valérie. On était tellement contents de se retrouver qu'on a fait une heure et demie d'émission, mais c'est pas grave.
Mais écoute, tout arrive, va apprécier.
Mais tout était passionnant. En tout cas, les vins étaient magnifiques. On les rappelle en deux secondes.
Tous les auditeurs qui viennent au Wine Therapy de temps en temps, ça fait vraiment plaisir.
On les embrasse, évidemment. Oui. Le dernier, c'était un Morgon 2017 de la maison Des Vignes. Le premier, c'était un vin IGP Côte du Lot du domaine Belmont. La cuvée Montaigne, c'était un chardonnay épatant. Saint-Jean-du-Barou, c'est le nom du domaine en Ventoux. Et la cuvée, c'était La Source 2017. Très joli vin à l'ombre des dentelles de Montmirail. Et entre les deux, on a eu le château La Canorgue en Luberon. Oui, les dentelles du Montmirail sont pas loin du Ventoux.
Ouais, ouais.
Tu fais la grimace, mais on est dans le même coin quand même.
On était vraiment sur le Ventoux, là, pour le coup. Pas trop aux dentelles, mais c'est l'un à côté de l'autre, oui.
Et le vin est
quand on est dans... Alors, je veux dire, quand on est au niveau des dentelles, on voit le Ventoux. Et quand on est au Ventoux, probablement qu'on voit les dentelles. Alors,
le vin, c'était de la dentelle, donc t'as...
Le vin, c'était de la dentelle.
Ça finit vraiment en sucette, cette émission.
Très joli, très joli. Merci beaucoup. Salut Olivier. À une prochaine.
Salut.
Merci d'être venu dans la Terre à Boire. À bientôt, merci de nous écouter. Ciao.
Bonsoir. Your hand, darling.